La musique de Dvorak pendant cette demi-heure avec les danses slaves opus 46, numéro 1 à numéro 6 par Philippe Corr et Édouard Exergent au piano. Disque Pierre Verani, référence PV 73 0011, PV 73 0011 chez Pierre Verani. Prochain rendez-vous musical ce soir à 21h. Je vous proposerai série jazz tout d'abord et puis à 22h rendez-vous avec Claudio tout d'abord pour les musiques de films et ensuite à 23h pour la série consacrée au grand pianiste. Ce soir, nous parlerons de Friedrich Gulda et entendrons des œuvres de Mozart jouées par ce pianiste. Tout de suite et en direct, le libre journal de Serge de Beckett. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est très exactement 18h. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 décembre 2004 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Volontaires et officiers blancs, et vos âges issuels, la honte de l'Occident, et vos âges issuels.
Amis de la Résistance, bonsoir. Comme nos auditeurs mélomanes l'ont peut-être remarqué, ce n'est pas Victoria qui a lu le générique d'introduction de cette émission. Il suffit d'avoir une oreille un peu fine pour s'en rendre compte.
Patrick.
Oui, Patrick peut venir, mais il s'en va, il est parti aux États-Unis. Patrick.
Ah bah alors.
Bande d'hétéro-cato, allez vous faire cuire un œuf. Parce que vous savez que c'est les deux, c'est les derniers qu'on peut continuer à insulter maintenant. Hein, c'est fini, le reste. Alors ça y est, après tout un tas de sinoches où ils nous ont eu dans le dos, la loi contre l'homophobie a été votée. Alors, il y a eu naturellement toute une série de magouilles, parce qu'ils ne peuvent pas résister, les députés. Ils sont tellement habitués à la crapulerie, à la malhonnêteté, à la magouille, que même pour des trucs comme ça, ils ont magouillé. Si bien que l'amendement Garot a été repoussé à la majorité en commission des lois, pas à la majorité, à égalité des voix, grâce à la complicité de Jérôme Lambert, le socialiste qui a voté avec l'UMP. Alors, pour les choses qui sont de l'intérêt national, vous ne ferez jamais voter un socialiste avec un chiracien. Pour taper dans la caisse, ils sont tous d'accord, mais pour voter ensemble, pas. Mais là, quand il s'agit d'une loi comme ça, qui interdit d'appeler un chat et une tante un PD, eh bien, ça, ils se mettent d'accord et ils votent. Et alors, le résultat, c'est que maintenant, on peut plus dire ce que je viens de dire, donc je vais vous quitter pour aller immédiatement en prison. Mais avant, je voudrais quand même signer... Quand je disais tout à l'heure, il y a que les cathos hétéros qu'on peut insulter, c'est pas tout à fait vrai. Pour l'instant, il y a encore deux catégories de personnes qui sont des sujets obligatoires, incontournables de la bonne blague, et qu'on peut traîner dans la boue autant qu'on veut, c'est les belles-mères et les percepteurs. Alors, c'est un peu usé.
Et les combattants d'Algérie.
Ah ben non,
Chose qui me gêne un peu, c'est qu'à midi, j'ai déjeuné avec un jeune homme charmant qui est à la fois mon neveu et mon filleul, et il s'appelle Jérôme Lambert.
Ah.
Il a déjeuné avec son oncle, on tirera les conclusions qu'on veut, mais...
J'espère que c'est pas le même. Voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant que je vous ai signalé cet intéressant progrès de la législation française, faut ajouter quand même que Père Ben, qui est pas la moitié d'un garde des Sceaux, il a eu une phrase admirable, il a dit que ce projet visait... Comment voulez-vous prendre ces gens-là au sérieux? C'est pas possible.
Enfin. Le cœur de cible.
Hein, mmh. Dominique Clermont a souligné que ce projet visait à, ouvrez les guillemets, construire une haie d'égalité des droits, construire la dignité de chaque être humain dans sa spécificité. Alors, une haie, construire une haie d'abord, on sent le paysan, là, on sent tout de suite, il sait ce que c'est que le jardinage. Tu vas me construire une haie. Et puis...
Mais ça saute, c'est pour ça.
Oui, c'est peut-être pour ça, oui. Ah oui, ça doit être pour ça. Et ensuite, construire la dignité de chaque être humain dans sa spécificité. Monsieur Perben, si vous voulez bien avoir la gentillesse de foutre la paix à ma dignité d'être humain dans sa spécificité, je vous en aurai beaucoup d'obligations. Voilà, et ça, c'est garde des Sceaux. Marqué quand on a un président de la République comme le nôtre, effectivement, on ne peut pas s'étonner.
Il faudra avoir quand même l'avis de la guettitude silencieuse, parce qu'il y en a une.
Bon, je sais ce qu'ils en pensent, ils n'ont strictement rien à battre. Voilà. Alors, il y a d'autres informations quand même qui sont plus intéressantes, mais avant, je vais vous dire qui sont les invités de ce soir. Je reçois donc Nicolas Bay, et c'est bien lui, je vous dirai pourquoi je dis ça tout à l'heure. Je reçois également Roger Olindre, ancien député. Mais c'est pas la meilleure part de son personnage. Ce que je préfère dans Roger, c'est Roger, quoi. Côté député, c'est pas le plus intéressant. Henri Dumérac, qui était déjà venu nous voir pour nous parler d'un produit extraordinaire, et je lui ai demandé de revenir pour en reparler, parce que bis repetita placente, comme disait mon prof de latin, c'est la mégamine. Donc il nous expliquera ce que c'est que la mégamine et où en sont, parce que c'est un produit qui est en perpétuelle évolution, sur lequel des laboratoires travaillent très sérieusement, et il nous expliquera donc où on en est.
Et
avec
à quoi?
À tout.
À tout.
Ouais, sauf à récurer les casseroles, mais non, c'est un truc assez formidable. Enfin, si tu nous fais le plaisir de rester, Henri Dumérac t'expliquera ça beaucoup mieux que moi, parce que moi je suis pas très brillant en technique.
Un petit peu de patience encore.
Voilà, il faut un peu de patience. Et dans la deuxième partie de cette émission, enfin, la quasi-totalité de la deuxième partie avec Jean-Claude Chabrier, qui est explorateur, ethnologue, musicologue, écrivain, fondateur du Christos. Et qui est un spécialiste de la Turquie, entre autres, et des minorités turques. Vous savez qu'en Turquie, je crois que c'est le président ou le premier ministre turc a dit récemment, nous n'avons pas de problème de minorité en Turquie, et pour contre, ils les ont toutes zigouillées. Donc, effectivement, là, il n'y a plus de problème.
Et c'est lui qui envoie ses filles étudier aux États-Unis.
Il envoie,
pas obligé de se voir.
Il envoie ses filles étudier dans les collèges modes, des infidèles pour qu'elles soient pas obligées de porter un foulard. Donc, on fera une promenade musicale et politique et historique et géographique et ethnologique et tout ça. Enfin, si j'arrive jusqu'au bout, on fera ça. Et puis, à la fin, on recevra Michel de Gégère pour quelques minutes et qui nous présentera une excellente initiative de Renaissance catholique qui a édité le Bref Examen Critique, qui est un document capital dans l'histoire du Concile, qui est donc un examen critique de la Nouvelle Messe par des cardinaux qui n'approuvent pas totalement, qui n'approuvaient pas totalement cette initiative et qui avaient annoncé dès le départ à quoi elle aboutirait. Et on voit aujourd'hui à quoi ça aboutit. Par exemple, on voit en ce moment fleurir des affichettes en couleur, s'il vous plaît, et même en couleur de mouche, où on voit donc le symbole de l'islam, donc le croissant islamique, la croix chrétienne et l'étoile de David, dans le ciel et qui se transforment petit à petit, un peu à la manière d'un dessin à la Escher, et qui finissent par faire des colombes qui volent ensemble dans le ciel. Autrement dit, que vous soyez musulman, juif ou catholique ou chrétien, vous appartenez à la même grande religion qu'on appelle le Mazdu. Enfin, que l'abbé de Nantes appelait le Mazdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Sujet auquel le Libre Journal a consacré 8 pages dans un numéro récent, qui a des pages qui ont eu un certain retentissement.
À propos, je voudrais vous dire que rue du Ruisseau, en face de chez moi, l'église Sainte-Hélène, qui est l'église qui est vraiment le symbole du Waterloo de l'église, il y a maintenant tous les jours, l'après-midi, une lecture de la Bible commentée par des juifs et des musulmans, à la demande du curé. Catholique, bien sûr. Donc, ça se tient.
Voilà. Alors, on va... Tiens, voilà Victoria qui arrive. Elle était...
Rescapée des embouteillages.
Ouais. Oui. Je comprends pas, vous êtes la seule à avoir été bloquée dans les embouteillages. Regardez, Nicolas Bay est là, Roger Olindre est là, Henri Numérac est là, le Marquis est là, moi je suis là.
Et moi c'était dans des embouteillages à la porte de Pantin.
Qu'est-ce qu'on va faire à la porte de Pantin?
J'y habite.
L'idée c'est de pas aller porte de Pantin en gros quoi. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission qui s'annonce extrêmement intéressante pour ceux qui sont restés.
En tout cas, tout fut musclé.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais une question.
Pourquoi vous les avez fait partir, les autres? Qu'est-ce que
non,
vous
non,
avez
non,
fait?
Expliquez-moi tout. Bon, non, non, on n'a pas encore dit de bêtises de nature à faire partir les gens. Vous avez vu qu'on a interdit l'émission, la télévision Almanar. Alors ça pue l'arnaque où je m'appelle pas Beckett. On autorise Almanar, ils font une demi-émission, les maîtres décident qu'on veut plus entendre Almanar, et immédiatement, le camarade Raffarin vient. Alors il est impérial, hein. Dans ce numéro de Père Noble, Raffarin, il est génial. Comment? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y aurait une émission qui soit pas, une télévision qui soit pas 100% sioniste? Qui serait dirigé par des musulmans. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Mais je suis tout à fait étonné d'apprendre ça. Je vais prendre immédiatement les mesures. Alors ça fait 10 ans qu'ils nous pompent l'air en disant que l'information en France est totalement libre, qu'il y a le CSA, la Commission supérieure de l'audiovisuel, qui est souveraine en la matière, et qui dit, voilà, il faut autoriser ou il faut pas autoriser. Donc ce sont des gens qu'on a mis là pour qu'ils fassent un certain travail, pour bien montrer que l'information en France, elle est absolument indépendante du pouvoir politique. Et là, au premier coup de Trafalgar, Raffarin dit assez ça, bon, allez, hop, ça va, vous avez assez parlé, maintenant c'est moi qui cause, et on interdit Almanar. De même, on nous dit depuis des années que... comment? Mais la séparation des pouvoirs. Mais évidemment, vous pensez bien que M. Perben ne va pas intervenir dans le comportement de la... sur le comportement de la justice. La justice est libre en France, nom de bleu. Hein, la justice, elle est rendue par des magistrats honnêtes, désintéressés et libres et indépendants. Moyennant quoi, lundi 29 novembre à 7h du matin, on apprend par RTL Libération Le Monde que l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Lyon, M. Richaud, sur les propos soi-disant, enfin prétendument...
C'est Richaud à gaz.
Celle-là, vous avez... Ça, c'est un coup de ciseau. Voilà, vous avez gagné un coup de ciseau. Prétendument attribué à Bruno Gollnisch. Donc, ses propos sur Richaud dit que ses propos ne peuvent pas être poursuivis et que, selon toute vraisemblance, il faudra les classer. Immédiatement, Perben, en toute liberté, bien entendu, et en toute observation de la séparation des pouvoirs, publie un communiqué pour faire savoir qu'il exige qu'il y ait un procès. Dans la foulée, le procureur général près de la cour d'appel View, s'appelle View, vous n'avez rien à dire sur View?
Bon, ça va.
Le supérieur hiérarchique de M. Richaud, toujours le même, annonce qu'il ordonne à ce dernier de poursuivre Bruno Gollnisch. Et pour dégager sa responsabilité, M. View publie un communiqué en déclarant qu'il, effectivement, il a fait ça, mais qu'il l'a fait sur instruction du garde des Sceaux.
Voilà.
Alors, c'est quand même extraordinaire. On nous explique que le garde des Sceaux n'intervient jamais sur le comportement de justice. D'ailleurs, on se demande ce que fout un ministre de la Justice s'il n'intervient pas sur la justice. Bref, en tout cas, il n'intervient jamais. Tandis que là, il intervient. Et en plus, il intervient dans un coup où, comme par hasard, la cible de l'acharnement judiciaire est son rival aux élections municipales prochaines à Lyon. Ça pue un peu le faisandé, tout ça. Nous, enfin moi, personnellement, j'aurais préféré, et de loin, que M. Perben, puisqu'il veut s'occuper de l'affaire de la justice, J'aurais préféré qu'il s'occupe pas. Bingo.
Ah oui, très bien. Bingo. Ah,
voilà. Ça ne sera pas coupé. Il s'occupe pas de l'affaire Jean-Yves Aubert. Alors, Jean-Yves Aubert, qui c'était? Jean-Yves Aubert, c'était un mandataire liquidateur à Chalon-sur-Saône. Qui sait d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant, le brave homme. Mandataire liquidateur à Chalon-sur-Saône, qui a été mis en examen pour abus de confiance aggravé, gonflement démesuré des honoraires, opacité dans la gestion des entreprises en faillite. Il était président de la Chambre des administrateurs et mandataire judiciaire. Il a été pendant 20 ans le trésorier local du RPR, et il est en charge du financement des campagnes de M. Perben. C'est embêtant, ça, pour un ministre de la Justice, d'avoir son mandataire financier qui se retrouve dans la justice pour gonflement démesuré des honoraires, abus de confiance aggravé et opacité dans la gestion des entreprises en faillite. Bien entendu, M. Aubert est innocent, on est tous d'accord là-dessus. Puisque
sinon, il n'aurait pas sa station de métro.
Et en plus, il n'aurait pas sa station de métro. Alors, c'est tellement un proche de M. Perben que M. Perben lui a remis la Légion d'honneur en 2003, 6 mois avant son inculpation. Il avait déjà fait le coup avec Jean-Louis Voirin, qui était procureur adjoint de Bobigny, et qui, 3 mois après avoir reçu la décoration des mains de Monsieur, avoir reçu une flatteuse promotion de la part de Monsieur Perben, se retrouvait de l'autre côté des barreaux. Et alors, lors de la remise de la médaille à Monsieur Aubert, le gratin de la Saône-et-Loire avait été invité à la chancellerie, s'il vous plaît, pour applaudir la remise de la décoration de la Légion d'honneur par Perben à Aubert. Et en présence du président et du procureur général de la Cour d'appel, c'est quand même du beau linge, chargé de... Et donc, à l'issue de cette cérémonie, oui, c'est ça que je voulais dire, à l'issue de cette cérémonie, Dominique Perben, évoquant son ami Jean-Yves Aubert, ne cachait pas son émotion en cet instant où sont célébrées tant d'années de fidèle amitié. Maintenant, l'ami, il est... il n'est pas en prison parce que... Bah pourquoi n'est-il pas en prison?
Oui, bonne question.
Normalement, parce que dans une affaire comme ça, étant donné qu'il s'agit de, je rappelle quand même, abus de confiance aggravé, gonflement démesuré des honoraires, opacité dans la gestion des entreprises en faillite, on comprendrait pour une fois que la justice décida une mise en détention provisoire, ne serait-ce que pour éviter d'éventuelles relations avec les autres prévenus, ou bon, des pressions, etc. Alors, M. Aubert n'a pas été mis en prison parce que le parquet de Chalon, qui avait envisagé pendant un moment de requérir son incarcération, a, au dernier moment, renoncé. Le parquet de Chalon a levé le pied. Je m'interroge. Pourquoi le parquet de Chalon a-t-il renoncé à demander l'incarcération du mandataire de M. Perben, garde des Sceaux? Apparemment, ça ne s'explique pas. Voilà. M. Aubert, il avait, dès sa première audition, il a avoué des dépassements d'honoraires et admis la mise en place d'un curieux mécanisme. Un cabinet de recouvrement de créances, dont deux dirigeants sont également poursuivis, dormait sur une cagnotte de 4 500 000 euros. C'est pas de la petite bière, tout ça. C'est tout ça, c'est des amis de Perben. Hein. Alors, comment ils faisaient? Ils allaient voir les débiteurs en disant, vous devez de l'argent à M. Tartemol et à M. Tartempion. Ils récupéraient le pognon et ils le rendaient jamais à M. Tartemol et M. Tartempion. C'est pas bête comme truc. Alors, M. Aubert a dit, c'est pas une malversation, tout au plus un dysfonctionnement dans mon étude. Ouais. L'enquête instruite par le juge René Jaillet, ancien membre du cabinet de Gérard Longuet, sous la première cohabitation, fait peu de cas des victimes potentielles de M. Aubert, gérant et salarié d'entreprises en faillite et créanciers divers. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'un véritable barrage a été mis en place pour éviter toute constitution de partie civile. Et donc, il n'y a personne qui peut mettre le nez dans le dossier de M. Aubert, l'ami, le mandataire de M. Perben. Il
n'y
a pas, dans un truc où il y a... quand même, je rappelle, abus de confiance aggravé, les gens qui ont été, dont la confiance a été abusée, gonflement démesuré des honoraires, les gens qui ont payé les honoraires, et opacité dans la gestion des entreprises, les gens qui ont quelque chose à voir avec les entreprises en faillite, n'ont pas pu se porter partie civile dans cette affaire. C'est quand même gigantesque, non? Montebourg, d'ailleurs, a dit que c'était un scandale national. Alors, il y a un exemple des méthodes de M. Aubert, c'est Mme Bézet, qui est une... qui porte bien son nom, d'ailleurs, une ancienne boulangère, avait fait faillite en 87, et... Maître Aubert s'est arrangé pour que son habitation personnelle, soit, qui avait été financée par un prêt du Crédit Agricole, soit incluse dans la faillite. Alors on dit c'est pas très fair play, mais ça a été entériné par le tribunal de commerce. Il ne doit pas être copain avec Aubert, cela, à part ça. Tout ça, ça doit appartenir à la même loge.
Ah, hein. Oh, c'est probable.
Ça schlingue le vieux franc-maçon. Oui. Et pendant une dizaine d'années, selon Madame Bézé, Monsieur Aubert, l'ami de Perben, toujours, a exigé que les remboursements mensuels qui se montaient à 20 000 francs se fassent en liquide dans son bureau, en affirmant « Je suis un professionnel, faites-moi confiance ». Vous savez, comme dans le viager.
Oui.
Faites-moi confiance. Alors, elle a fait confiance. Et en 2001, elle a vu arriver des huissiers qui lui ont dit non, madame, il faudrait peut-être cracher un petit peu au bassinet parce que la banque n'a pas touché un rond. Elle a dit, mais comment? Mais ça fait des années que je paye à monsieur Aubert. Mais comment ça? C'est faux. C'est faux, a dit Aubert. Qui serait assez idiot pour verser des espèces sans réclamer un reçu? Bah, une boulangère, par exemple, qui s'appellerait madame Bézé.
Elle est Bézé.
Et l'avocat de la boulangère, maître Franck Hurtrait, assure que pour sa part, l'huissier, après s'être fait conter l'histoire, est parti sans rien réclamer. Il devait avoir sa petite idée de l'affaire. Voilà ce qui, par exemple, montre comment fonctionne, comment on a plus avantage à être l'ami de M. Perben que son opposant dans une élection municipale.
Ah oui,
il y a quand même un truc très drôle, c'est qu'au cours de son... d'une audition, Monsieur Aubert avait été invité par M. Perben à proposer une réforme des tribunaux de commerce. Il faut s'adresser aux gens qui connaissent la question. Et à l'occasion de la remise de ce rapport, Arnaud Montebourg avait auditionné Aubert. Et alors il l'avait interrogé. Il lui a dit « Combien déclarez-vous de revenus annuels ?»« Je me situe dans la tranche d'imposition la plus élevée. » »« Ça ne nous dit rien de précis, » dit Montebourg. Bah, « En moyenne, le montant imposable peut varier entre 3 et 4 millions de francs par an. » Et là, Montebourg, il pose une question qui est la question qui tue à 150 000 dollars. Il dit, attendez, des revenus imposables ou d'impôts? Les 3 ou 4 millions de francs par an, c'est les revenus imposables ou c'est les impôts? Et l'autre lui dit, ben non, d'impôts.
Aïe.
Voilà. Mais M. Aubert dit, il ne faut pas généraliser, ça il avait dit ça avant, quelques boutons noirs ne font pas une profession.
Tout ça est une honte, mais il n'y a que la boutonnière de M. Aubert qui a rougi.
Ah bah je pense, personne d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la fameuse séparation des pouvoirs qui nous a tellement fait rigoler quand on faisait philo à l'école.
Et l'égalité de traitement surtout.
Voilà. L'égalité devant la loi qui est un des fleurons de la République démocratique. Monsieur Nicolas Bèche, j'ai dit que vous étiez là et que c'était bien vous, parce qu'on a fait une boulette l'autre jour dans le Libre Journal, on a dit que vous étiez présent à une réunion, vous n'étiez pas. En plus, on a dit que vous étiez sous info, non?
Voilà, oui, c'est votre ami Monsieur Goffman, je crois, qui s'est trompé dans son...
C'est moi qui suis coupable de tout ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est bien la preuve qu'il ne faut jamais écrire et croire ce qui est écrit dans les journaux, même quand c'est dans le Libre Journal.
Mais je confirme en effet que je n'ai rien contre le Club de l'Horloge, puisqu'il s'agissait d'une réunion du Club de l'Horloge, mais je n'étais pas présent à cette réunion, pas plus sous un vrai nom que sous un faux nom. D'une manière générale, d'ailleurs, je n'agis, ni n'interviens, ni n'écris jamais sous pseudonyme. Et donc j'invite le rédacteur de cet article à vérifier mieux ces informations avec plus de soin pour ne pas ajouter l'approximation à l'agressivité.
Goffman, habillé pour l'hiver. Là, vous venez nous parler d'un colloque qui est organisé à propos d'un sujet qu'on évoquera en deuxième partie, mais vous ne serez plus là, sur la Turquie.
Oui, enfin, c'est un colloque qui traite plus généralement de la question de l'islam et de ses conséquences, l'islamisation, l'islamisme, et également la question de la Turquie. Mais ce n'est pas uniquement sur la question turque. Le mouvement national républicain de Bruno Maigret profite des trois années qui viennent, où il n'y a pas d'échéance électorale, pour réfléchir sur le fond de son projet politique et organiser un cycle de colloques tout au long de cette année, tous les deux mois environ, sur un certain nombre de sujets importants, de grands enjeux politiques des années à venir. Alors le premier colloque de cette série, il traite de la question de l'islam Il aura lieu samedi prochain, c'est-à-dire le 11 décembre, de 14h à 18h30, dans les salons du Novotel de la Porte de Bercy, à Paris, dans le 12e arrondissement. C'est, l'adresse exacte, c'est 85 rue de Bercy. Alors, je précise que c'est un colloque organisé par le MNR, mais qui, naturellement, est ouvert à tous ceux qui seraient intéressés par ces questions-là, qu'ils soient membres du MNR ou membres d'autres formations ou membres d'aucune formation politique. C'est, je crois, un enjeu suffisamment important pour que des débats puissent se faire d'une façon libre et ouverte et, sur cette question. Voilà, donc c'est l'esprit
qui colloque. Qui sont les intervenants
Alors, un certain nombre de dirigeants du MNR, naturellement, et de personnes qui ont des compétences particulières, en particulier un certain nombre d'universitaires. Donc je peux les citer brièvement: Bertrand Robert, qui est docteur en médecine, membre du bureau national du MNR, Isabelle Lara, qui est professeur de philosophie, Roger Cuculière, qui est également professeur agrégé, Séverine Souville, Tancrède Josserand, Véronique Péan, qui est éditeur, Yves Dupont, qui est professeur agrégé normalien et vice-président du MNR, et enfin la dernière intervention, la clôture de cette réunion, sera faite par Bruno Maigret sur la question relever le défi de l'islam. Parce qu'au-delà du constat, la situation alarmante de la France, la situation alarmante de l'Europe sur cette question-là, il faut proposer évidemment un certain nombre de solutions pour défendre notre civilisation européenne et chrétienne face aux menées islamistes.
Donc, ça se passe, vous nous avez dit... Samedi prochain, c'est ça?
Samedi prochain, samedi prochain, le
11 décembre, au Novotel Bagnolet.
Non,
Bercy.
Novotel Paris-Bercy.
Excusez-moi, oui, Paris-Bercy. Et c'est à quelle heure?
Et c'est de 14h à 18h30.
Est-ce qu'il y a un prix d'entrée?
Oui, il y a une participation de 7 euros qui est demandée pour couvrir les frais d'organisation.
Donc voilà, si le sujet vous intéresse, et je pense effectivement que c'est un sujet tout à fait passionnant et tout à fait essentiel et central en ce moment, on peut encore organiser des colloques sur l'islam.
Je crois que c'est un complément indispensable à l'action politique que le MNR mène par ailleurs en se présentant aux élections. Et aujourd'hui, quand on voit que les principaux partis politiques institutionnels installés ont de moins en moins de réflexion politique et placent tous les moyens importants qui sont les leurs dans leur communication. On l'a vu récemment avec l'espèce de show géant de Sarkozy au Bourget qui a coûté 6 millions d'euros. Et il y a quand même un contraste surprenant entre les sommes investies et le vide doctrinal sidéral qui a présidé à cette réunion. Et
moi, j'ai vu les photos d'abord, enfin les images, j'ai cru que c'était un show avec Christian Clavier.
Oui, mais c'est... Oui. Hein? Ben c'est de la doublure. C'était Clavier qui était Bourget, c'était pas...
Ah bon, c'est Clavier? Non, mais Clavier, j'avais raison, c'est bien Clavier. Parce que je me suis dit, tout le monde dit pourquoi il parle de Sarkozy alors que c'est évidemment Christian Clavier.
On fait la différence juste en regardant les pieds, mais comme il photographie généralement que les têtes...
Ah c'est ça. Merci Nicolas, vous avez autre chose à dire?
Non, mais je vous souhaite une bonne soirée
et
une joyeuse fête de fin d'année à vos auditeurs.
Et vous y serez, ce colloque?
J'y serai.
Sous votre nom?
Sous mon vrai nom.
D'accord. À bientôt.
Souhaitons que cette marche turque fasse un Chopin.
Ça sera bien aussi.
Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, il est en forme, notre marquis, ce soir. Roger Olyndre. Alors, je t'ai demandé de venir ce soir au Déboté, parce que il t'est encore arrivé une aventure. Il y a des choses quand même comme ça. Je me souviens quand j'étais gosse, je lisais les aventures de Bob Morane, et je me disais, Bob Morane, c'est un personnage incroyable, parce que moi, je rentre dans un bistrot, je bois un coup, je m'en vais, il se passe rien. Bob Morane, il rentre dans un bistrot, il y a un type qui rentre, qui tue la caissière, ou n'importe quoi. Enfin, il y a 10 000 petits hommes jaunes qui viennent prendre d'assaut la boutique qui est en face du bistrot. C'est des gens qui ont des aventures. Moi, rien. Il se passe jamais rien dans ma vie. Sauf quand je fréquente des banquiers, mais enfin, en dehors de ça, c'est pratiquement rien.
Oh, c'est rien.
Et Roger, lui, toujours des trucs incroyables.
Alors, je ne le cherche pas spécialement, ça arrive comme ça. Ben, j'ai terminé un bouquin voici peu de temps, il était à l'imprimerie, et je m'étais arrangé, puisque je devais rentrer en clinique pour l'opération de la hanche que je subis et qui se passe bien, je m'étais arrangé pour sortir pour la signature des écrivains combattants qui devaient se tenir au Sénat. Donc j'étais prêt pour aller à cette signature, le bouquin était prêt pour être livré, et la veille, hein, le 3 décembre 2004, je reçois chez moi un coup de fil, hein, d'un gars qui me dit que je suis indésirable au Sénat, que je n'ai rien à faire au Sénat et qu'on ne veut pas de moi. Bon. Alors c'est quand même un peu étonnant parce que j'appartiens à l'association des combats, des écrivains combattants. J'en suis assez fier. C'est une association qui tient la route. Hein. Je suis écrivain, je suis ancien combattant, donc j'ai toute raison d'être là. Et on me dit qu'il ne faut pas que j'aille à cette signature, que Monsieur Poncelet, le directeur le président du Sénat, ne veut pas de moi. Et à la suite de ce coup de fil, hein, qui quand même me bouleverse un peu, parce que je n'ai plus aucune confiance dans tous ces individus, mais je dis là, ça commence quand même à bien faire, hein. Eh ben, j'ai reçu un certain nombre de coups de fil de gens qui m'ont dit, mais, Monsieur Lindre, on vous connaît, vous êtes un type sérieux. Vous savez que si vous insistez et si vous voulez venir au Sénat signer votre livre, vous risquez de créer de graves problèmes à l'Association des écrivains combattants et à son président, Monsieur Thoriac, parce que le Sénat ne lui donnera plus les salons dans les années à venir pour faire les dédicaces de livres.
C'est du chantage.
J'ai trouvé ça proprement honteux, dégueulasse, un chantage ignoble, surtout qu'à la suite de ce coup de fil, j'ai reçu d'autres coups de fil de gens me disant que je n'avais pas à me défiler, que j'avais qu'à aller là-bas, et je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de se tracasser, que je ne comptais pas du tout mettre les pouces et que je comptais bien aller sur place. Bon, j'étais quand même un peu embêté vis-à-vis de Thoriac, parce que je le respecte, c'est un président qui gère bien son affaire, qui ne m'a jamais posé de problème sur mon appartenance politique et autres. Mais il y avait aussi un problème, c'est que le livre que je sors, hein, n'avait pas l'air de plaire à tout le monde. Le titre, c'est « L'imposture Viet Minh, la trahison du Parti communiste et l'abandon de la métropole ». C'est-à-dire le véritable problème de la guerre d'Indochine. On ne peut pas traiter de la guerre d'Indochine sans traiter de ce problème. Et plus on étudie la question, plus on s'aperçoit que l'aventure Viet Minh a été une immense imposture. Parce que les dirigeants communistes du Viet Minh n'ont été capables que d'amener une chose à leur peuple, la misère et la guerre. À ça, ils ont su faire la guerre. Et nous, paras, nous, soldats, on a toujours respecté le Viet Minh en tant que combattants. Personne ne peut dire que dans la bouche d'un soldat d'Indochine, un vrai, il y avait des insultes pour le combattant Viet Minh. On en a tué le maximum parce que c'était l'ennemi que la France nous avait désigné, que c'était l'ennemi communiste. Et comme le disait hein, le père Gégaud, qui était aumônier de la demi-brigade parachutiste de Bayonne, vous allez partir en Indochine, vous allez vous battre parce que la France vous a demandé de vous battre. En face, vous avez un adversaire. Eh bien, c'est un adversaire, c'est le communisme. Vous avez en face de vous le communisme. Alors, vous allez en tuer le maximum, mais puisque vous êtes chrétien, vous allez les tuer sans haine. Voilà ce que disait le père Gégaud. Tout ça, c'est bien loin du charabia d'aujourd'hui. Hein, parce que je fais partie de ces gens qui commencent un peu à en avoir marre. Ce n'est pas moi qui ai déclaré la guerre d'Indochine. Ce n'est pas moi qui ai déclaré la guerre d'Algérie. C'était dans des unités régulières de l'armée régulière de la République française, dirigées par des gens démocratiquement élus, qui nous ont envoyés à la guerre. Et quand on envoie des soldats à la guerre, c'est pour qu'ils gagnent la guerre. Donc nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner ces guerres. Alors aujourd'hui, qu'un type vienne sur mon téléphone portable, je ne sais comment il a pu avoir le numéro, mais enfin, on s'aperçoit aujourd'hui que n'importe qui peut avoir le numéro de n'importe qui, en passant par Pierre-Paul Jules, hein, me disant, si vous insistez pour aller signer votre livre, qui est un véritable travail d'historien. Mais nous, gens de droite, on ne peut pas être historien. N'importe quel camp de gauche se prétend historien, même s'il ne connaît rien à l'histoire. Mais nous, on peut travailler 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça fait 40 ans que je travaille sur la guerre d'Indochine. Je ne suis pas un historien. Je serai, d'après eux, un Jean-Foutre. Mais moi, j'en ai marre. Je ne suis pas un Jean-Foutre. Alors j'ai dit, je vais là-bas. Et puis, c'est tellement le foutoir hein, dans cette République hein, que je suis rentré au Sénat sans que personne ne me demande rien, parce que je suis rentré par derrière. Et comme je connais le Sénat, j'ai été me mettre à ma place où les livres étaient là. Et puis, ils se sont aperçus que j'étais dedans. Bon, mais comme je viens d'être opéré et que je me balade avec des béquilles, j'avais mes béquilles à la main, j'ai dit qu'ils viennent me virer. Qu'ils viennent me virer, qu'un espèce de connard vienne me dire que ma place n'est pas là. C'est quand même assez honteux, c'est quand même ahurissant. Et parmi les gens qui m'ont téléphoné pour me dire de faire preuve de diplomatie, parce que nous aussi, on est incapable, soi-disant, d'être gentil, on est incapable d'être diplomate, mais il y a un gars qui m'a téléphoné pour me dire, Olandre, il vaudrait peut-être mieux que tu t'abstiennes parce que tu vas apporter des graves problèmes à Thoriac. Bien, ce mec qui m'a téléphoné pour me dire ça, et c'est ça qui m'a touché le plus, j'ai été son copain de tranchée, son copain de trou. Il était lieutenant et moi j'étais simple radio. Parce qu'on venait de subir l'assaut des forces viettes dans la bataille du Bavé, dans la bataille de la Rivière Noire, une des plus grandes batailles de la guerre d'Indochine. Hein, et au dernier moment, comme il fallait des mecs des merdes dans les survivants de la compagnie, dans les survivants du bataillon, ça chiait dans toute la région, c'était une offensive viette absolument incroyable, eh bien, c'est un de ces hommes qui était mon chef à ce moment-là, qui trouve le moyen de me téléphoner pour me demander au nom de je ne sais quel franc-mac et au nom de je ne sais quel pourri de ne pas aller signer mon bouquin au Sénat. Voilà sur quoi on joue aujourd'hui. Parce que si nous ne disons pas non, si nous ne mettons pas les pouces, nous ne sommes pas des gens sérieux, nous ne sommes pas des gens gentils. Roger, moi, je dis que tout ça commence quand même à être un peu gros.
Il faut ajouter quand même que ce type, cet ancien compagnon de Danché, dont tu étais le radio en Indochine et qui te demande de pas venir, aujourd'hui, il est général du grade de réserve. Il est général, oui. Il est Gégène.
Mais je ne donnerai pas son nom.
Non, il ne s'agit pas de donner son nom. Mais il s'agit de montrer que même un type comme ça, qui doit avoir maintenant quoi, 85 ans ou
80 ans,
qui n'a absolument plus rien à perdre, plus rien à gagner et tout, mais il a tellement l'habitude de ramper, de courber les chines, que il téléphone, il a cette impudence invraisemblable, cette crapulerie morale de téléphoner à un ancien camarade de combat pour lui dire, écoute, ne viens pas parce que tu vas nuire à quoi.
C'est extraordinaire. Le sentiment de service, c'est quand même à dire, parce que je n'en ferai pas une histoire. J'ai envoyé une lettre au président du Sénat. Est-ce que j'ai le temps de la lire?
Bien sûr.
Alors voilà la lettre que j'ai envoyée au président du Sénat. Monsieur le président et chers collègues, parce qu'il est sénateur, je suis ancien député et je suis conseiller régional d'Île-de-France.
Mais comme t'es pas formel, t'as pas pu dire.
Le vendredi 3 décembre 2004, en soirée, un coup de fil de l'association des écrivains combattants, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir en tant qu'écrivain et en tant que combattant, m'informait que j'étais indésirable à la signature organisée par cette association dans les locaux de votre prestigieuse assemblée. Dans les heures qui suivirent, des coups de fil, dont certains anonymes, chez moi, sur mon portable et à mon bureau, m'invitaient à me conduire dignement et surtout à ne pas créer de problème à M. Michel Thoriac, président de l'Association des écrivains combattants, pour lequel j'ai d'ailleurs le plus grand respect. Longuement, un correspondant tenta de m'expliquer mon devoir, à savoir que si je persistais à vouloir venir signer mon dernier ouvrage, l'Association des écrivains combattants, dont Michel Thoriac se verrait privé des locaux pour les années à venir. Incroyable chantage. L'un de mes interlocuteurs me connaissait parfaitement. J'avais en effet, au moment de la percée Viet sur Hanoï, combattu des semaines à ses côtés durant la bataille dite du Bavi et de la Rivière Noire, où nos troupes, sous l'impulsion du général Delattre, infligèrent des pertes terribles aux forces du Viet Minh, mais laissaient sur le terrain des centaines de morts, dont, entre autres, la moitié de la 10e compagnie à laquelle j'appartenais, dépendant du 5e bataillon de commandos parachutistes coloniaux. Il est bien entendu que je n'ai jamais eu l'intention de nuire en quoi que ce soit à l'Association des écrivains combattants, qui m'a fait l'honneur de me compter parmi ses membres, place que je pense mériter par mes combats et par mes écrits. J'étais beaucoup plus peiné par les problèmes que je risquais d'imposer à Michel Thoriac en personne. Heureusement, celui-ci eut l'honnêteté et le courage de me téléphoner personnellement pour me demander de prendre la décision que j'estimerais la plus juste. C'est pourquoi je me suis rendu à cette séance de dédicace. Je suis rentré dans les locaux du Sénat et j'ai été prendre ma place à ma table de signature où trônait mon dernier ouvrage, L'imposture Viet Minh, qui passe aux yeux de nombreux spécialistes comme l'un des livres les plus sérieux parlant de notre guerre d'Indochine. Inutile de dire que cet après-midi, c'est fort bien passé, car je suis toujours dans ce genre de manifestation, l'un des auteurs le plus couru. Le lendemain, je pouvais lire dans le journal Libération l'encadré suivant. Confidentiel, Hollande, FN, privé de colloque au Sénat. Vice-président du FN, Roger Hollande devait participer à la rencontre des écrivains combattants samedi au Sénat. Patronné par Chirac, cette réunion est organisée par Michel Thoriac, co-auteur de De Gaulle, mon père, avec Philippe De Gaulle. Pressé par le cabinet de Poncelet, il a décommandé au dernier moment le dirigeant le péniste. Il est quand même un peu gros. Que ce soit ce journal qui ne vit et ne survit qu'avec l'argent du grand capital, pour qui la vie de nos camarades dans toutes les dernières guerres dites coloniales n'a pas compté pour grand-chose, qui fut le seul à mentionner cet événement. Ce quotidien d'ultra-gauche est d'ailleurs dirigé par M. Serge July, qui n'a pas hésité à se faire déclarer débile mental pour ne pas aller faire son service en Algérie. Je tiens, M. le Président, à vous poser une question très sérieuse à laquelle je vous demande de répondre, car je ne laisserai pas les choses en l'état. Je me battrai tant qu'il le faudra pour avoir cette réponse. Qui a pris la décision de demander que je sois exclu de cette signature de livre? Est-ce bien vous? Est-ce quelqu'un de votre entourage? Et dans l'affirmatif, pour quel motif? Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. Et là, pour une fois, j'ai quand même mis mes titres, j'ai quand même mis ce que je suis, j'ai quand même mis ce que je fais. Je suis un des plus jeunes résidents de France. En ce qui concerne la guerre d'Algérie, je ne l'ai pas fait mieux que les autres, mais je l'ai fait très bien. J'ai été cité pour mon action envers la jeunesse musulmane des Orestes et Mencha. J'ai fait tout ça avec mon sang, j'ai fait tout ça avec mon fric, j'ai fait tout ça avec mon argent, avec mes propres deniers. Je commence à en avoir par-dessus la tête. Mais comment peut-on s'étonner quand on voit que l'autre soir, par exemple, il y a deux soirs, on voit à la télévision, Monsieur le Président de la République, Jacques Chirac, inaugure une plaque sur les quais de la Seine en l'honneur des soldats français de la guerre d'Algérie. Ça dure 30 secondes et après, pendant 10 minutes, un espèce de connard du contingent vient nous expliquer qu'il pleure toutes les nuits parce qu'il a organisé sur ordre de son sous-op une corvée de bois en Algérie et qu'il a tué un Algérien. Toutes les tueries du FLN, tous les assassinats du FLN, tout ce que la France a fait de bien en Algérie, tout ça, ça n'intéresse plus personne. C'est la chienlit généralisée tous les jours. Il faut absolument qu'ils aient la peau des combattants qui ne veulent pas mettre les pouces. Eh bien, moi, je le dis encore ce soir, et je le crierai bien haut, je ne mettrai jamais les pouces. Moi, je les emmerde.
Bravo, Roger. Bravo, Roger. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Merci d'être...
Il faudra nous donner la réponse de M. Poncelet.
Oui, je ne laisserai absolument pas tomber. J'ai fait une lettre polie, j'ai fait une lettre correcte. Ça demande une réponse. J'aimerais qu'il me donne les raisons pour lesquelles ce type me veut tricard au Sénat dans une association dont je suis membre et je suis à jour de cotisation et autres. Et je n'allais dans les palais du Sénat que sur la demande de l'association.
Oui. Et puis pour signer un livre, pas pour tenir un meeting. Bon, il n'y a pas...
Merci. Roger, à bientôt.
Une auditrice nous dit « Heureusement qu'il y a Radio Courtoisie et qu'on voit qu'il reste encore des hommes en France. »
Alors, le bouquin, je pense que...
Oui, on va en parler, mais tu en parleras. Tu viendras nous en parler plus longuement. Ça s'appelle L'Imposture Vietnam. C'est un très bel album.
Sans aucune prétention, c'est un document.
Un grand album, un très bel album avec des photos en couleurs magnifiques, avec des reproductions des unes de matchs, avec des reproductions d'affiches de la propagande viet, et puis aussi d'ailleurs des affiches françaises, avec des photos là où on va pouvoir voir ce que c'était et dans quel état nos soldats sont revenus des camps viet. Et cela, on en parle quand même moins souvent.
Mais je pense que le contenu du bouquin est aussi pour quelque chose dans cette offensive.
C'est évident. Il y a un chapitre sur le traître Boudarel. Il y a enfin beaucoup, beaucoup de documents. C'est ce qui fait
une grande partie des tracts Viet Minh.
Voilà. Hein. C'est la photographie des tracts. qui sont qu'on ne voit plus, qui ont disparu pratiquement. Toi, tu les avais tous gardés
et tu Moi, les j'ai as, la plus grande collection,
une collection formidable. Voilà.
À ma connaissance, Boudara, il n'avait jamais été interdit de signature, non, quand il présentait ses bouquins. Au contraire, il était reçu avec les honneurs, oui, bien sûr.
Alors voilà, c'est un livre qui est publié par qui
C'est une édition de Ligoland.
Ligoland. Ouais. Ouais. Très bel album, grand format, avec une magnifique couverture. Et on en reparlera plus longuement.
Oui, d'accord, pas de problème.
Merci, Roger. Mon petit Fersan, à vous de passer à la moulinette à légumes. Comment allez-vous, Henri de Fersan?
Ça va.
Alors, on aura tout
ça lu. Ça a été fraîchement ces temps-ci, mais ça va.
Un livre de Fersan qui paraît. En général, il annonce le livre, mais il ne paraît pas. Tandis que là, il est paru.
Ah bah oui, là, celui-là, il est paru, bien paru, puisque vous avez l'exemplaire dans les mains.
Ouais. Oui, je l'ai. Tenez, je vais le faire. Je vais le montrer au micro. Voilà.
Là, vous avez montré le livre au micro. Il est là, il vient là.
Alors, il s'intitule. Alors, vous êtes prié de. Mesurez vos propos, Henri, je vous signale, parce que, attendez, le titre que vous avez choisi pour votre livre, je crains le pire. Alors,
vous pouvez craindre un juste titre.
Anastasie est perchée sur mon épaule et elle sera impitoyable.
Oui.
Henri de Fersan, Ma libre parole. Préfacé par Marc-Claude Loup. Marc-Claude Loup, c'est le fondateur, animateur du cercle Céline.
Du bulletin Célinia.
Bulletin Célinia, voilà.
Et on peut dire, je pense, que Marc-Claude Loup est le spécialiste, le plus grand spécialiste à l'échelon international de Céline.
Voilà. Alors, donc, Henri, vous avez publié, enfin, vous publiez cet ouvrage qui était attendu déjà depuis un certain temps, et un certain temps, le mot est faible.
Voilà, voire un temps certain.
Mais c'est un recueil, en fait, c'est un recueil d'articles.
D'éditoriaux, très exactement.
D'éditoriaux que peu de gens ont lu, finalement, que peu de lecteurs ont pu découvrir, parce que ils ont été publiés dans deux journaux que vous avez créés, qui s'appellent
Le Libre Averne et les Lettres Fersan, oui, voilà. dont le tirage, bon, faut avoir l'honnêteté de le dire, dont le tirage et la diffusion sont relativement confidentiels, faut bien le dire.
Alors, voyons un peu ce qu'il y a dans ce livre, parce que c'est un ouvrage qu'il faut manier avec précaution, parce qu'il risque d'exploser au nez assez rapidement et voilà, faire des blessés graves. Alors, d'abord, il y a des scoops. Oui. Ça, je dois dire que vous avez, au cours de votre apprentissage de journaliste, vous avez appris à débusquer l'information et vous vous êtes fait une spécialité de scoops particulièrement, comment dirais-je, exceptionnels, originaux, je dirais. Pas des scoops comme on en a dans la presse aujourd'hui, où on vous dit le scoop, c'est que Sarkozy sera candidat au présidentiel de 2007. Non. C'est des
vrais scoops. Le scoop, c'est qu'il ne le sera pas.
Il y a par exemple l'affaire Marianne.
Oui, alors je précise que l'affaire, donc c'était un service militaire qui s'appelait le 3615 Marianne et qui n'a, je tiens à le préciser, absolument pas le moindre contact avec l'hebdomadaire de Jean-François Kahn. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est justement parce que je cherchais le service, je suis tombé en fait sur ce site Minitel, justement parce que je cherchais le service Minitel du journal Marianne, qui n'a en fait pas de service Minitel. Et donc cette affaire, il faut savoir donc qu'il existe en France, malgré toute la répression et la répression, ce qu'on nous présente comme de la répression, des sites Minitel et aussi Internet faisant l'apologie de la pédomanie en toute légalité. Bon, il y a quelque temps, j'avais fait justement, je le cite dans cet éditorial, donc qui est dans le livre, qu'il y a en France une maison d'édition qui tient aussi une librairie et qui est détenue par un immense cartel d'édition et qui diffuse en toute légalité des livres pédophiles dans les plus dans les supermarchés maintenant, ils ont été retirés, mais dans les relais de gare notamment. Qui les vend dans toute légalité, et notamment il y a certains livres où ils considèrent les jeunes handicapés mentaux comme des proies faciles pour ce genre de réseau, ce qui, au moment où on en vient à juger l'affaire Émile Louis, prend tout son, si j'ose dire, tout son intérêt. Et donc, j'ai été le premier à lever cette affaire. Ce n'est pas d'ailleurs le seul scoop que je donne sur le sujet, puisque j'ai été amené à faire le tour d'un réseau pédophile bien implanté dans l'est de la, dans une grosse ville de l'est de la France. Ce n'est pas une préfecture, mais c'est une grosse ville de l'est de la France, où on est quand même remonté jusqu'à des hommes politiques de très premier plan. Je ne dirai pas de nom, évidemment, parce que je n'ai pas d'ennui.
Sauf si vous avez des preuves.
Voilà, sauf des preuves. Voilà, j'ai des preuves, mais on est remonté jusqu'à des personnalités de très très haut rang.
Alors vous avez également, dans les scoops, vous avez traité de la natalité, vous avez apporté des informations tout à fait originales sur la dénatalité, on devrait plutôt dire en France.
Oui.
Et puis, ça c'est un peu technique, donc il vaut mieux lire votre article qu'en parler à la radio. Mais...
Enfin, quoi que, je voudrais, si vous me permettez Serge, je dirais un mot sur la natalité. J'ai réussi à me procurer par des biais assez détournés, des sources multiples, les vrais chiffres de la natalité en France. Bon, il n'y en a pas, j'ai les chiffres essentiels, ça prend deux minutes à les donner. Il faut savoir qu'officiellement, le taux de natalité en France est de 1,8. Mais quand on le répartit par couche, ethnique, si on fait une étude ethnique, les résultats sont très intéressants. Le taux de natalité des Français de souche est de 1,2, ce qui est extrêmement bas. Le taux de natalité des Maghrébins, que l'on pourrait croire élevé, est en fait a complètement chuté ces dernières années et est tombé à 2,5. Parce que beaucoup de maghrébines refusent de faire des enfants. Elles se sont complètement occidentalisées. Elles refusent d'enfanter. Le taux de natalité des Africains est très élevé encore, puisqu'il est de 4,9. Et, alors là, ça va étonner, mais la communauté, si j'ose dire, religieuse, ethnico-religieuse, qui a le taux de natalité le plus élevé en France, et qui est une anomalie, comme l'avait dit...
C'est la famille Fersan.
Moi, la famille Fersan, nous sommes sous les quotas, puisque c'est la communauté catholique traditionnaliste qui a, à l'heure actuelle, un indice de fécondité de 6,4 enfants par femme, et c'est une anomalie démographique, puisque alors que toutes les courbes démographiques baissent, ce qui est entre guillemets une évolution démographique normale dans notre société, eh bien celle des catholiques traditionalistes, on constate depuis 20 ans que le taux de natalité augmente.
Mais ça, c'est parce que Saint-Nicolas a lancé un concours.
Je crois.
Ouais, je suis absolument certain.
Mais sachant que les personnes, nous en sommes à 5, enfin, nous allons avoir le 5e en janvier, nous sommes encore sous le quota. Mais je fais confiance à ma petite femme pour que nous soyons d'ici 3 ans au-dessus du quota.
Les travaux se poursuivent, quand même.
Voilà, exactement.
C'est très bien. Vous avez aussi un papier très intéressant sur le prestige,
oui.
le naufrage du prestige, dont vous dites carrément que c'est un acte de guerre.
C'est un acte de guerre, oui. D'ailleurs, je me suis fondé sur une petite histoire de politique fiction qui est parue il y a une dizaine d'années et qui disait exactement le scénario du prestige, puisqu'il était question à l'époque du Mexique, qui avait une énorme dette vis-à-vis des États-Unis, et donc le Mexique se livrait à un chantage au gouvernement américain. C'était soit l'annulation de la dette mexicaine, soit les Mexicains faisaient échouer des pétroliers sur les plages de Kokomo et de Miami Beach en Floride, qui ruineraient donc ce qui passe pour les plus belles plages des États-Unis. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu cette histoire du prestige et surtout tout ce qui entoure ce mystérieux bateau que personne n'avait voulu, qu'aucune compagnie pétrolière n'avait voulu affréter tellement il était dans un état de déliquescence absolue et qui, alors qu'il partait à la casse à Singapour, a fait une dernière cargaison de fuel, alors qu'il n'aurait jamais dû recevoir du pétrole puisqu'il partait directement à la casse, est venu bizarrement s'échouer sur les côtes françaises, alors que précisément le propriétaire de la compagnie avait un certain contentieux, pour ne pas dire un contentieux certain, avec le gouvernement français. On est en droit de se poser des questions, et je prends d'ailleurs tout à fait le droit de poser les questions et d'y apporter ce que j'estime être des réponses.
Et alors vous évoquez aussi un duel que vous menez depuis des années avec une personne dont on ne va pas donner le nom, parce qu'on ne va pas lui faire la publicité.
C'est voilà, ça, c'est une journaliste.
Mais bon, il faut lire ses papiers, c'est assez rigolo. On peut dire que c'est Jeanne Lucienne, mais ça ne dira rien à personne.
J'aime beaucoup Jeanne Lucienne, c'est ce qui est une dame d'un âge vénérable, qui a un côté yiddish, mama, qui peut être, ou mama sicilienne, qui peut être parfois agaçant. Et elle est amusante comme tout, elle a un style très personnel, on va dire, et elle arrive à faire des fautes d'orthographe jusque dans la numérotation des pages.
Alors ça, c'est pas un scoop, c'est un aspect très amusant de votre livre. C'est que vous n'hésitez pas à vous mettre en scène, à dire les choses carrément. Par exemple, il y a une formule que j'aime beaucoup chez vous. Vous avez inventé un sigle qui est PARAM. Vous savez ce que ça veut dire, PARAM, monsieur le marquis?
Non,
ça veut dire pas d'argent, rien à manger.
Oui, le fameux régime PARAM, pas d'argent, rien à manger.
Donc c'est un régime américain qui est vachement efficace, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que le camarade Fersan, il a presque figure humaine maintenant.
Ah, il sait que...
À force de suivre le régime PARAM. Et alors, il y a des papiers très drôles sur... il faut les prendre avec humour, parce qu'en réalité, c'est pas si drôle que ça, quand on sait qu'il y a une famille de 5 enfants derrière.
La semaine dernière, nous avons eu le régime PANAF.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça?
C'est pas d'argent, nous avons froid. La température de la maison était quand même tombée à 10 degrés la semaine dernière.
Ah, oui. Mais c'est pour ça que vous avez beaucoup d'enfants.
Bah, évidemment.
On a réussi, en raclant les fonds de poche, on a réussi à payer le fuel.
Il y a aussi des pages alors, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, parce que ce n'est pas la peine d'attirer les foudres de notre camarade Père Ben, mais vous avez quelques...
Têtes de Turc.
Quelques têtes de Turc bien choisies. Et là, c'est quand même... Alors, je comprends mieux, effectivement. J'étais un peu jaloux. Mais je comprends mieux pourquoi l'eau de loup dit dans sa préface que votre humour cinglant et votre verve pugnace renouent avec une vieille tradition de la droite française, de Rochefort à Léon Daudet en passant par Drummond et Blois. Je trouvais que ça faisait beaucoup, mais finalement il y a les pages sur Guy Bedos, Carl Zéro et autres personnages sympathiques du PAF.
Bah, justement, si vous me permettez, Serge, je vais juste dire la fin d'un petit d'un petit envoi sur une personnalité du PAF que je ne citerai pas. Voilà. Donc, où j'explique un peu le sort que j'espère qu'il lui réserver le jour où, si j'ose dire, le vent aura tourné de sens. Donc, quelle place aura-t-il demain, puisqu'il aime vider les poubelles, puisque je m'étais acharné sur lui suite à des pseudo-révélations qu'il avait faites sur une personnalité de notre bord qui n'avait rien d'infamante en elle-même. Puisqu'il aime vider les poubelles, on lui donnera un bel uniforme vert prairie et un véhicule lourd. Il pourra assouvir sa passion avec sa casquette Ville de Paris derrière le camion Ben.
On va essayer de deviner, une forte récompense à qui devine de quoi il est question. En revanche, vous parlez pratiquement pas de l'immigration. Ça vous a passé, ça?
C'est pas que ça m'a passé, mais parce que je trouve que parler... Bon, genre, il y a quelques éditoriaux consacrés à l'immigration, mais je trouve... Parler de la question d'immigration dans un journal, je trouve que c'est un sujet... qu'on n'a pas traité dans un éditorial, parce que l'éditorial est plus une sorte de, entre guillemets, de coup de calgon ou de coup de cœur. Bon, l'immigration, il y a une forte, dans mes journaux, il y a toujours la rubrique société où il y a donc toutes les questions d'immigration qui sont traitées, mais c'est vrai que parler de, bon, déjà, parce que il faut dire que dans ce domaine, le sujet est assez redondant. Pas pour des éditoriaux. C'est bon, il y en a quelques-uns qui sont consacrés au sujet, mais c'est vrai que notamment bon l'affaire de la basilique Saint-Denis où j'ai fait un éditorial lorsque les sans-papiers ont occupé l'église de la basilique de nos rois, mais sinon dans l'ensemble ce n'est pas bon, il y a d'autres si je veux dire, je consacre plus d'autres livres au sujet plutôt que de consacrer les éditoriaux de mes journaux.
Alors vous avez des idoles, il y a Coston, Figueras.
Voilà, des hommages à Henri Coston lors de son décès, à André Figueras qui a longtemps été mon voisin à Renaissance catholique, puisque Fersan Figueras, nous étions souvent côte à côte. Et c'est vrai que la disparition d'André Figueras fait quand même un grand vide. C'est vrai que cette année j'ai été à Chiré, donc à la...
Pourtant vous serez à côté de Gobry.
Non, cette année je suis à côté des Fontaines, Louis et Rémi Fontaine.
Ouais.
De Louis et Rémi Fontaine. Non, entre Fersan et Gobry, il y a quand même pas mal de personnes qui s'intercalent. C'est pas une proximité, bien que nous soyons dans une proximité géographique, puisque nous fréquentons, quand il prend ses quartiers d'été, nous fréquentons des paroisses voisines.
Les Jeannettes, qu'est-ce que c'est ça?
Ah bah les Jeannettes, c'est un éditorial assez frais, je dois bien dire, puisque dans notre paroisse s'est créée une meute de Jeannettes, donc des filles, des demoiselles scouts de la tradition, et c'est vrai que quand du jour au lendemain le nombre de Jeannettes passe de 3 à 12 dans la paroisse, ça mérite un éditorial parce que c'est tout simplement l'illustration de ce que je disais tout à l'heure sur la dynamique démographique de nos milieux et du fait que, étant donné qu'il y a de plus en plus d'enfants, il y a fatalement plus en plus...
Est-ce qu'il y a de poules Fersan dans les Jeannettes?
Il n'y a pas encore de poules Fersan puisque l'aînée des poules Fersan n'a que 5 ans.
Alors vous avez fait un papier aussi qui va certainement faire dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de gens à la mode en ce moment. Vous faites un éloge de la femme catholique.
Oui. Que j'appelle, donc à qui j'ai donné un surnom qui commence à passer puisque j'ai vu d'autres personnes le reprendre. J'ai lui donné un petit surnom aimable et aimant. J'ai donc surnommé la femme catholique de tradition. Je l'ai surnommée la Tradinette.
C'est mignon.
La Tradinette. Et bon, bah, c'est un éloge de la femme catholique. A commencé quand même par, je dirais, celle qui est pour moi l'élite de la femme catholique, puisque c'est celle qui me supporte. C'est celle qui me supporte depuis 7 ans quand même. Et donc c'est ma chère et tendre épouse, Madame de Fersan, que vous connaissez, que vous avez eu l'occasion de rencontrer. De Serge. Et oui, c'est donc c'est un éloge sur les femmes de nos milieux, puisque il est vrai que même dans nos milieux, je dois dire, et même dans des partis qui se revendiquent du décalogue, nous n'avons pas pris le temps de d'honorer et de chanter les louanges, si j'ose dire, de celles à qui nous devons tout et celles sans qui il faut bien le préciser, et on ne le dira jamais assez, que sans elle, le monde serait un globe triste et livide, tournant dans les terres autour d'un soleil inutile.
Ah, c'est joli.
Voilà.
Alors c'est un papier qui commence en latin. Inimicitas ponem interte et mulierem et semen tuum et semen illius. Ce qui veut dire, vous l'avez tous compris, je mettrai une hostilité entre toi. Et la femme, entre ta descendance et sa descendance, Genèse 3.15. Il faut s'appeler Fersan pour commencer un édito par une citation de la Genèse en latin, s'il vous plaît. Moi, je l'aurais mise en hébreu. Mais...
Oui, je l'ai mis en latin, tout simplement, parce que, bon, il faut préciser que c'était un éditorial qui a été publié au mois d'août, dans l'octave de l'Assomption, et qui, donc, dans le jour où on honorait la Très Sainte Vierge, il était tout à fait normal d'honorer celles qui sont, si j'ose dire, alors humble niveau... des images de la Sainte Vierge qui sont nos mères, nos femmes et nos filles pour les plus âgées d'entre elles.
Alors voilà, il y a aussi des articles qui sont consacrés à l'histoire, l'article voilà, Louis XVII. Vous prenez position sur Louis XVII.
Je ne rentre pas dans le débat sur le cœur de Louis XVII. C'est plus une comparaison entre le sort. C'était en fait un éditorial que j'ai fait suite au livre de François Chandernagor sur Louis XVII et où j'avais été ulcéré par les réactions de certains journalistes. Tartuffe n'était pas mort. Je pense que si Molière écrivait son Tartuffe, il ferait du Tartuffe 2004 une espèce de bobo plus ou moins membre d'Amnesty International.
Bernard Henri Lévy,
voilà, c'est ça, une sorte de
BHL.
Voilà, et donc ils disent, mais comment une telle horreur a été possible, ouais. Bande d'hypocrites.
Mais oui, c'est Bernard Henri Lévy, sauf que dans le cas de BHL, c'est le saint qu'on ne devrait pas voir, c'est le sien.
Oui, voilà. Vous savez que vous avez le BHV qui fait de la quincaillerie en détail, c'est un peu le supermarché de la quincaillerie, et avec BHL vous avez le supermarché du lieu commun en détail, en gros, en très gros et même un peu trop gros.
Voilà. Alors, il y a également votre spécialité sur laquelle vous revenez, puisque vous êtes un spécialiste des affaires étrangères, et vous aviez débuté d'ailleurs au Libre Journal en faisant une série de papiers qui avait été très appréciée sur les différentes armées, les différents armements des pays
voilà,
du monde.
Et je me souviens, à l'époque, nous travaillions tous les deux à Toulon, j'avais fait un papier sur les querelles dynastiques, je sais pas si vous vous souvenez de ce papier, sur les querelles dynastiques en Arabie Saoudite, et là je l'ai relu récemment, et qui était tout à fait prophétique sur la situation saoudienne actuelle, et notamment dans certains pays du Proche-Orient. Oui, donc là, j'ai fait plusieurs éditoriaux des affaires étrangères, notamment toute une série d'éditoriaux au moment où a éclaté la guerre du Golfe, enfin la deuxième guerre du Golfe, entre la coalition anglo-américaine et les Irakiens, et où donc je rappelle certaines réalités, notamment des comparaisons qui avaient été faites avec notamment sur le non-engagement de la France aux côtés de la coalition, ce qui avait valu un débordement de haine anti-française dans la presse américaine. et qui avait amené donc à faire certains parallèles historiques, puisque ils avaient fait des comparaisons pour le moins déplacées avec l'amorce de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi j'ai mis un peu le doigt sur la chose et j'ai montré que effectivement s'il y avait bien une comparaison à faire avec la Seconde Guerre mondiale et les guerres en Irak, celle-ci et celle de 91, c'est le fait que dans les deux cas, ce sont les démocraties, ce qui sont autoproclamées démocraties et que moi j'appelle des ploutocraties, qui dans les deux cas ont poussé entre guillemets la dictature à la guerre. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la genèse des deux guerres en Irak et de la Seconde Guerre mondiale, il y a certaines similitudes aussi bien dans les travaux d'approche faits pour déclencher la guerre que dans les lobbies et les groupes de pression qui ont tout fait pour provoquer les deux conflits.
Voilà, alors on a fait un survol rapide du livre. Il est à la fois amusant, intéressant, il est bourré de petites réflexions. C'est du faire sang, quoi.
Pour ceux qui aiment le style faire sang.
Alors maintenant, dites donc, parce qu'il y a quand même des auditeurs qui vont poser la question. Ce mensonge antiraciste, l'introuvable.
Alors, le mensonge antiraciste.
L'Arlésienne.
Alors, je rassure les auditeurs qui auront donc la chance de me voir à Villepreux ce dimanche. C'est toi qui ressentais la chance de les voir.
Non, il m'a dit que j'aurais la chance de voir.
Ah voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais dit, figurez-vous. Donc, la maquette sera consultable, et donc il est le prochain sur la liste de parution. Non. Voilà, celui-là est sorti.
Vous serez à Villepreux, mais vous serez aussi à
la Licorne Bleue, oui. Donc, je dédicace samedi, donc à la Licorne Bleue, 3 bis rue Jules Vallès, Paris, dans le 11e métro Charonne. Je dédicace donc samedi à partir de 14h.
Très bien. Et puis, est-ce que vous allez recommencer le livre Arverne ?
Alors oui, il y a eu une suspension de parution due à des problèmes de santé que j'avais évoqués la dernière fois. Donc la parution va reprendre progressivement. Alors il y a des gens qui ont des abonnements en cours. Il va de soi que leur abonnement sera prolongé du prorata de l'absence. Et donc il y a maintenant un nouveau système d'abonnement qui m'a été insufflé par un jeune confrère, on a le même âge, mais qui est bon pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, vit actuellement en Belgique, qui m'a donné donc une nouvelle forme d'abonnement, une idée d'une nouvelle forme d'abonnement qu'il fait lui pour son journal. Ce sera un abonnement à la page. C'est-à-dire que maintenant, les gens ne paieront plus pour tant de temps, ils paieront pour tant de pages. Et quand le nombre de pages sera atteint, là, ils recevront un rappel d'abonnement. Donc, ils auront un quota de pages.
100 pages, une page par an, ils peuvent lire le journal pendant 100 ans.
Voilà, à peu près.
Merci Henri. On se voit donc à Villepreux dimanche.
Une dernière précision, Serge, pour le livre quand même, donner les détails techniques.
Oui.
Oui, quand même. C'est donc pour le livre. Alors on peut se le procurer donc soit samedi à la Licorne Bleue, soit dimanche à Villepreux, ou soit le commander aux publications Henri de Fersan. Donc je donne les coordonnées. Publication Henri de Fersan, 4 route 2. Bournazet, Bournazet, 63 870 Orsine. Et donc le livre vaut 35 €, plus donc prévoir 5 € de frais de port en cas de commande. Et le livre fait donc 367 pages. Victoria rappellera de toute façon les coordonnées en fin d'émission.
Oui, elle rappellera ça avec plaisir. Merci Henri. À bientôt.
Attendez, j'ai un petit message. Une auditrice dit : je pense qu'il serait impossible de publier un livre du genre de celui. Ah non, c'est pas le vôtre. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée de papier. J'étais abonnée au Libre Arverne et aux Lettres Fersan. Je m'étonne de ne plus les recevoir.
Pour les Lettres Fersan, il y a eu un retard effectivement de 3 mois qui a été comblé puisque le numéro de décembre va. Donc les numéros d'août, septembre, octobre et novembre sont partis la semaine dernière et le numéro de décembre va partir lundi.
Voilà, donc le retard est rattrapé. Alors, un auditeur écrit « Je trouve scandaleux que l'on donne des scoops qui ne portent sur aucun fait réel. Pourquoi ne donne-t-on pas le nom de la librairie qui propose des ouvrages pédophiles ?» Cher monsieur, je veux bien vous rendre service, mais alors, c'est un titre strictement personnel. Écrivez à Henri de Fersin, il vous donnera l'adresse. Mais,
elle est dans le livre.
Voilà. Au micro, c'est difficile. Et deuxième chose, n'est-ce pas un fantasme que ces fameux réseaux pédophiles, ce monsieur a-t-il porté plainte devant le procureur? S'il a des preuves, pourquoi ne donne-t-il pas les noms des personnes en cause? Alors là, je vais reprendre à sa place. Pour une raison très simple, c'est que en matière de presse, en matière de diffamation, l'offre de preuves ne vaut pas. C'est-à-dire que si vous dites Monsieur Tartemolle est un voleur et que vous dites au tribunal que Monsieur Tartemolle porte plainte, et quand vous arrivez devant le tribunal correctionnel, on vous dit Monsieur, vous avez accusé Monsieur Tartemolle d'être un voleur, vous allez être condamné pour diffamation publique. Vous dites non, pas du tout, je peux pas être condamné pour diffamation puisque c'est la vérité, j'ai la preuve. On vous répond, vous ne pouvez pas faire une offre de preuve en matière de diffamation. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne, le système. Le système de la presse en France, il n'est pas libre comme vous pouvez le croire. La censure existe toujours, mais ce qui a disparu, c'est la censure préalable. Et la censure postérieure, d'ailleurs on vient d'en avoir la démonstration superfétatoire par le vote de cette nuit, la censure postérieure, elle, est toujours plus que jamais valide.
Voilà. Ça rappelle d'ailleurs au sujet de la censure la fameuse histoire soviétique sur le soldat qui déclare que Brejnev est fou. Alors c'est le soldat soviétique donc qui traite Brejnev de fou et qui prend 20 ans de goulag, 5 ans pour offense au secrétaire général du Parti communiste et 15 ans pour divulgation de secrets d'État.
Voilà. Merci Henri. Eh bien maintenant, alors on va changer complètement de sujet. On va, après avoir exposé les mots, on va peut-être parler des remèdes. Encore que, je ne sais pas si la mégamine est un remède pour les souffrances de cette pauvre France.
C'est pas un médicament, c'est sûr.
Ouais, c'est un supplément alimentaire.
Hein. Voilà,
supplémentation.
Complément alimentaire. Voilà. Ça va bien sûr dans le sens de ces produits qui sont donneurs d'espoir, parce qu'au lieu justement de colmater une brèche, de s'attaquer à une maladie, on renforce directement les mécanismes cellulaires et on donne du coup les moyens à l'organisme de continuer le chemin, de réparer le...
Alors Henri Dumas, il faut d'abord que je vous présente. Mmh. Moi, ce qui me fascine, c'est que vous êtes polytechnicien. Pour moi, les polytechniciens, c'est des gens avec des bicornes. Et vous ai jamais vu avec un bicorne. Donc la prochaine fois, faites-moi plaisir, venez avec votre bicorne. Il faut une preuve quand même, parce que c'est facile de se dire polytechnicien. Mais et vous avez
Ça fait combien?
Attendez, je vais.
Ça dépend dans quel système.
Il n'a pas sa calculette.
Alors, donc vous avez pris en main les destinées d'un produit qui s'appelle la mégamine et dont je vais vous demander de nous expliquer ce qu'il est exactement.
Alors, à l'origine de la mégamine, il y a la découverte faite par un savant croate qui a mis au point un procédé pour broyer des minéraux sans les techniques de broyage habituelles, mais en mettant en collision les particules à haute vitesse.
C'est-à-dire que le broyage n'intervient que grâce à un flux d'air.
Exactement.
Ce qui évite, ça c'est très important à préciser, un des problèmes du broyage très fin, c'est que le broyeur se broie lui-même.
Et voilà, c'est l'abrasion.
Donc dans les produits broyés très finement, il y a des particules du métal, aussi dur soit ce métal, il y a forcément des particules de ce métal qui entrent, qui finissent par entrer dans la composition.
Exactement.
Du produit final.
Exactement.
Qui n'est pas toujours très bon.
Voilà.
Ce croate a mis au point une espèce de système qui fonctionne par flux d'air.
Voilà.
Qui fait que les particules...
Alors, on obtient trois choses, au fond. On obtient, d'une part, une granulométrie beaucoup plus fine, une pureté effectivement parfaite du matériau, mais alors, il faut voir que les particules qui se collisionnent entre elles ont une surface qui est complètement fracturée et qui, du coup, va favoriser leur dissociation quand elles sont en milieu biologique, en milieu vivant. Et alors, la troisième chose qui est peut-être la plus importante, c'est que chaque fois qu'il y a des collisions, il y a aux arêtes des particules minérales des électrons qui restent disponibles Et du coup, ces petites particules vont devenir, que ce soit dans le corps humain ou dans les plantes, des donneurs d'électrons. Alors ça, c'est très important par rapport à la, tout ce qu'on appelle les thérapeutiques anti-âge. C'est-à-dire que, dans le fond, l'apparition des maladies est fortement corrélée au passage du temps. Et que la démarche de prévention la plus forte qu'on puisse faire, c'est d'aider l'organisme à maintenir un état de fonctionnement qui devrait être le même quasiment du début jusqu'à la fin. Alors pourquoi aujourd'hui le vieillissement, tout le monde, tous les scientifiques le raccordent à l'apparition continue des radicaux libres, vous savez, suite à la respiration des cellules, au cœur des cellules. Donc les radicaux libres sont pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est des molécules auxquelles il manque un électron, qui du coup deviennent extrêmement réactives et prennent cet électron manquant dans un noyau, sur la bête, exactement. Alors le fait de pouvoir apporter des petites particules qui deviennent des donneurs d'électrons va permettre de les neutraliser directement. Non seulement de les neutraliser, alors ça va ensuite beaucoup plus loin, parce que la présence de ces électrons a amené d'autres recherches qui n'était plus directement relié à la neutralisation des radicaux libres, mais au transfert des propriétés.
Alors ça, on va y venir, mais d'abord, il faut quand même préciser une chose que vous n'avez pas fait. Ce que vous n'avez pas fait, c'est que au départ, le produit qui est broyé avec une granulométrie infinitésimale, c'est de la zéolite, c'est-à-dire c'est une pierre volcanique, qui présente la particularité, quand on l'observe au microscope électronique, de montrer des cavités, une espèce d'éponge minérale.
Et voilà, exactement.
Minuscule, infinitésimale éponge minérale.
Exactement, pleine de cavités régulières. Et on va dire que ça va fonctionner comme un tamis moléculaire à travers lequel les ions nutritifs vont pouvoir circuler et les ions type cation acide ou métaux lourds ayant un poids moléculaire fort vont être attrapés dans la structure de la zéolite et capturés. Exactement.
Et ensuite transportés
par
l'évacuation, système d'évacuation normal. Donc, on a un produit qui est une poudre presque liquide, d'une finesse extraordinaire. Qui, d'une part, apporte des électrons indépendants qui vont alimenter, qui vont en quelque sorte
contribuer
boucher les trous des radicaux libres, si j'ose dire. Et d'autre part, apporte des espèces de capteurs d'ions ou de métaux lourds. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, alors ça, c'est ce dont on va parler maintenant, c'est ces infinitésimales petites éponges peuvent transporter dans l'organisme des produits avec lesquels elles ont été préalablement chargées.
Exactement. Alors là, ce sont des mécanismes qui sont encore mal connus, qui sont utilisés, bien sûr, c'est le principe fondamental de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'une substance active qui est jusqu'au niveau chimique interprétée en termes d'un site, d'une molécule se fixant sur une autre, peut aussi être interprétée en termes électromagnétiques. C'est pour ça, par exemple, que les préparations homéopathiques sont agitées pour que l'activité des particules se transmette par un phénomène encore peu connu finalement à toute la solution. Alors là, il s'agit d'une propriété un peu différente. La structure elle-même de la zéolite contient naturellement une charge négative qui lui permet de prendre une empreinte électromagnétique. Alors pour le démontrer, l'équipe de recherche croate qui a mis la mégamine au point a fait une expérience passionnante en plaçant sur une plaque de verre un insecticide et en plaçant sur une autre plaque de verre en dessous la zéolite activée. Et en balayant l'ensemble du dispositif avec un rayon laser, donc le laser lui peut transporter justement une information électromagnétique, le laser traversant l'insecticide allait balayer la zéolite sans contact direct. Et ensuite cette zéolite était placée dans une boîte en carton et toutes les mouches placées dans cette boîte mouraient immédiatement. C'est-à-dire que ça a permis
extraordinaire
de fabriquer un insecticide 100% minéral. Avec, évidemment, en enlevant toute la possibilité de
c'est une information électromagnétique, en quelque sorte.
Exactement.
On pense que c'est ça,
Tout à fait. Et en réalité, ce transfert d'informations, c'est des procédés qui sont, d'une part, je dirais, sur un certain plan dont on connaît mal les mécanismes, mais qui sont aussi couramment utilisés dans de nombreux modes de préparation au rayon laser, nucléaire notamment. Alors, ce qui s'est passé au niveau de la zéolite, c'est que ça a conduit l'équipe de recherche à activer en même temps cette roche volcanique avec d'autres corps.
Alors là, vous m'avez raconté une histoire, une des expériences qui sont en cours en ce moment avec un produit à base de tomates, c'est ça?
Et oui, exactement. C'est-à-dire que la mégamine elle-même donc a différentes vertus, comme la chélation des métaux lourds, comme l'impact antiacide, antioxydant. Et du coup, progressivement ont été mises au point des variantes de la mégamine en activant ensemble la zéolite avec des feuilles d'ortie gelées, avec du pollen, pour justement avoir, on pourrait dire, une multiplication de l'activité biologique positive telle que l'ortie ou le pollen, au sens où chaque petite particule va entrer en collision des milliers de fois avec les particules de zéolite. Et à chaque collision, l'activité biologique va être mimétisée. Alors, l'activité antioxydante de ces mégamines à base d'ortie et de pollen était déjà d'un niveau extrême. Et pour aller encore plus loin, la dernière mise au point, qui normalement sera disponible, je pense, à partir du mois de janvier, c'est pas encore tout à fait en phase de vente, mais le produit a déjà été longuement testé, et ça a été d'activer en même temps que la zéolite le lycopène de tomate, qui est un des plus puissants antioxydants d'origine végétale. Alors la préparation qui en est issue, donc issue de la collision des petites molécules de lycopène, s'appelle le lycopénomine, et elle a été testée à Berlin dans un laboratoire spécialisé de la mesure des antioxydants. Et là, c'est des mesures très nettes, on les met dans des solutions in vitro et on envoie énormément de radicaux libres, et du coup on mesure la capacité de neutralisation des radicaux libres des différentes substances. Et pour ça, on a les antioxydants de référence qui sont en phase aqueuse, la vitamine C, et en phase lipidique, la vitamine E. Alors pourquoi ces deux phases? Parce que tout simplement, ça représente la cellule dans le corps humain, où on a la phase aqueuse qui est à l'intérieur de la cellule.
Les graisses qui font la membrane de la...
Exactement. Et le taux antioxydant de la lycopénomine a été porté à 1020 fois celui de la vitamine E pour la phase lipidique, et à 1080 fois celui de la vitamine C pour la phase aqueuse.
Est-ce que ça veut dire que l'efficacité d'un gramme de lycopénomine, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Correspond à l'efficacité d'un kilo de vitamine C?
Au niveau de la réduction des ions peroxyde, c'est-à-dire de la neutralisation des principaux radicaux libres, tout à fait.
Mais ça, c'est une révolution fantastique, parce que ça peut bouleverser totalement la pharmacopée en matière de...
C'est une grande avancée dans le domaine de la santé naturelle, c'est sûr. Le laboratoire qui a testé de la lycopénomine a d'ailleurs écrit que ce taux était supérieur à ceux des autres antioxydants connus, testés. On peut trouver mieux, bien sûr, on a peut-être trouvé mieux depuis, mais pour le laboratoire, c'était un résultat hallucinant.
Alors, on a un produit, en plus, ce qui est amusant, moi je trouve ça amusant, c'est que c'est un produit qu'on peut absorber, il est présenté en gélule ou en poudre, ou qu'on vielait dans un verre, avec lequel on peut se faire des frictions.
Oui,
on peut utiliser comme un talc.
Exactement, pour enlever les démangeaisons.
Je dois dire que c'est, pour l'avoir expérimenté, c'est un produit ahurissant.
Ahurissant, oui.
Parce que, en ce qui concerne la cicatrisation, par exemple, c'est foudroyant. C'est-à-dire que, en trois jours, la plaie est cicatrisée complètement. Mais c'est aussi un produit qui peut être utilisé.
Vous savez, j'étais cet après-midi avec un de nos importants interlocuteurs pour la distribution, et qui était d'humeur un petit peu ronchon, et sa collaboratrice avait une plaque d'eczéma sur la main, et il m'a dit, mais bon, on va bien voir, c'est des histoires ou pas, et là, si elle essaye là et que ça fait rien. Et je lui ai dit, écoutez monsieur, qu'elle en mette tout de suite, si dans un quart d'heure il ne s'est rien passé, je sors. Et un quart d'heure après, elle a dit, écoutez, je ne sens plus rien.
C'est quand même incroyable. Ouais. Alors c'est aussi un produit qui est utilisé en agriculture.
Alors oui, en tout cas, c'est un produit qui est issu du même procédé. Pour les plantes, on utilise un minéral différent. D'ailleurs, les plantes permettent d'une manière très intéressante de voir en direct la relation entre l'effet antioxydant et l'effet anti-âge. Parce qu'on entend tellement parler d'antioxydants qu'on pourrait se demander si c'est pas un petit peu du blabla. Là, un jour, on avait mis le produit agricole en test au laboratoire SADEF, qui est un important laboratoire agréé près de Colmar, qu'il a testé longuement, donc pendant toute la période de culture, sur des tomates. Et un jour, le responsable du laboratoire nous a appelé en disant, voilà, il faut que vous veniez voir, les tomates non traitées avec Mega Green deviennent jaunes. Alors je me suis dit, ça y est, c'est encore une maladie dont notre Mega Green protège. Alors ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et puis en arrivant au laboratoire, pas du tout, cette maladie, c'était la vieillesse. C'est-à-dire que les tomates jaunissantes étaient en fin de vie, et les tomates qui avaient régulièrement été traitées avec Mega Green étaient en pleine vigueur et en pleine verdeur, avec encore des feuilles épaisses et fournies. C'est-à-dire qu'on avait vraiment décalé la sénescence de la plante. Et ça, c'est fascinant, parce qu'on voit exactement qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'un antioxydant sur la cellule vivante, et que c'est quelque chose qui peut pas, certes, faire remonter le temps, mais qui peut complètement changer la donne au niveau de la dégénérescence des cellules.
Ouais. Alors c'est aussi un produit vétérinaire.
Alors bien entendu, ses propriétés cicatrisantes et les propriétés, je dirais, de la zéolite en complément alimentaire pour les animaux ont toutes des implications du même ordre.
Ah, c'est que j'ai fait une expérience. Moi, je me suis réveillé parce que j'ai un grand aquarium à la maison.
Oui.
Et il n'y a rien de plus rasoir que de changer l'eau de l'aquarium parce que c'est compliqué, c'est long, il faut tirer de l'eau en éclabousse tout. Donc j'ai dit que je ne change plus l'eau de l'aquarium. On va essayer. Je mets de la zéolite, enfin de la mégamine, comme on met de daphné, quoi.
Voilà.
Et alors, pendant une dizaine de minutes, l'eau est totalement trouble. Et après, on a l'impression qu'on a multiplié. Alors, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec la bonne santé des poissons, mais on a l'impression que la luminosité de l'aquarium a été multipliée par 3 ou 4 ou 5, forcément. D'un seul coup, l'aquarium devient lumineuse. Les plantes sont vertes. Et puis les poissons ont l'air des messieurs.
Oui, c'est tout à fait.
D'une façon tout à fait satisfaite. On se demande.
Et vous savez qu'il y a eu un essai justement sur les poissons qui était très très impressionnant, sur des cultures de poissons d'ornement. L'essai a été réalisé pendant une saison où il y avait des conditions de sécheresse et de stress au niveau des poissons très importantes, et on a eu, avec une complémentation à 8% de cette zéolite activée, on a réduit de moitié la mortalité dans les bacs de poissons qui étaient traités.
C'est formidable.
C'est amusant de voir le pouvoir ressentir, que ça soit en externe ou en interne ou par des expériences telles que vous les décrivez, d'avoir un effet directement constatable et visible.
Alors, mais le statut de ces produits, enfin en tout cas pour ce qui concerne la consommation humaine, c'est pas un statut de médicament.
Non, surtout
pas.
C'est vraiment destiné à accompagner le corps, soit dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on prend la mégamine, l'effet qu'on ressent, c'est souvent une nette amélioration au niveau de la fatigue générale. C'est-à-dire que les 2 ou 3 dernières heures de la journée, on se sent plein d'énergie et on les vit pas du tout comme d'habitude. Et puis évidemment, c'est très indiqué dans les périodes de récupération, de convalescence, dans les périodes où le corps est toujours soumis à rude épreuve, parce que l'action détoxicante et l'action neutralisante des radicaux libres, ça fait référence à un principe universel de santé du corps. Il y a un congrès de médecins il y a 2 semaines auquel on parlait de la mégamine, et le médecin qui intervenait juste avant moi a dit 80% de l'énergie de l'organisme est utilisé à la détoxication du système digestif. Donc on imagine ce qu'on peut faire et dans quelle mesure on peut aider lorsqu'on va aller directement faire à la place du corps une partie du travail. C'est pas plus sorcier que ça.
Alors si on veut des renseignements, on peut d'abord aller sur internet, parce que je vois qu'il y a un site qui s'appelle, je sais pas, vous êtes au courant de ça, www.innovationsanté. En un seul mot.
Non, ça je ne savais pas.
Alors qui présente, ça s'appelle la médecine autrement, qui présente la mégamine. Et vous avez un site
ou... Non, il n'y a pas de site,
pas
ça, mais non.
Alors, oui, on peut se le procurer à une adresse qui est toujours comme les adresses que j'aime. Je vais vous la donner parce que j'aime bien donner des adresses comme ça. Alors, ce produit se trouve chez Azure. ACF, c'est ça ?
TCF.
TCF, oui. Azure. Alors, Azure, attendez, non. H-A-S-U-R, parce que ça serait trop simple.
H-A-S-U-R.
Plus loin, TCF, comme Touring Club de France. Lieu dit Intervalt.
Épelé, s'il vous plaît.
H-I-N-T-E-R-W-A-L-D.
Oh là là.
Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, il faut s'y faire.
Et ça n'est pas fini.
67 250.
Oui.
Unspach. H-U-N-S-P-A-C-H. H-U-N-S-P-A-C-H. Ça, c'est le village, ça.
Oui.
Et on donne le téléphone.
D'accord.
Ah oui, c'est plus facile.
Alors, 03 88 80. 59 75 03 88 80 59 75 et le fax 03 88 80 97 80 97 80
non 97 60 pour le fax.
C'est mal imprimé alors. Entschuldigung. 97 60 rayé 80 mettez 60 à la place. Voilà.
Bien.
Voilà, alors essayez-le, parce que ça vaut la peine d'essayer au moins une fois, puis après on voit. Moi j'en mets partout maintenant. Le chien se gratte, je lui mets de la mégamine, j'en mets partout. Et c'est assez...
Pour mettre à la banque, pardon.
Oui, c'est une bonne idée. Merci,
merci à vous, merci infiniment.
Vous reviendrez nous voir pour nous tenir au courant de
bien volontiers, l'avancement de la recherche
de académique. De la recherche, parce que c'est vraiment intéressant.
Entendez,
et
merci.
Et puis, à très bientôt. C'était avec cette musique, Jean-Claude Chabrier.
C'est la musique du Mamamouchi. Vous savez, c'est le fils du grand turc. Vous savez qu'il va aller à Bruxelles.
Ah oui, d'accord. Oui. C'est extrait du Bourgeois Gentilhomme.
Oui, mais j'ai pas de fille à lui donner à marier.
Ah bah, c'est une sortie pour vous. Il fallait vous y prendre plus tôt. C'est un peu tard maintenant. Alors, Jean-Claude Chabrier, je suis content de vous recevoir parce que vous venez nous voir régulièrement et on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous venez nous présenter. Nous faire des comptes rendus de vos voyages à travers le Moyen-Orient. Vous êtes un spécialiste de la Turquie et des pays environnants. De l'Empire ottoman, c'est ça. Et alors ce soir, on a eu l'idée de faire cette émission d'une façon un peu nouvelle. Alors, faire le point sur nos relations, en quelque sorte, les relations de la France et de l'Europe avec la Turquie. Mais en reprenant les choses au départ, et donc en faisant une promenade à la fois historique, géographique, musicologique, ethnique, enfin une promenade comme ça, comme vous en faites depuis très très longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça, quand même.
Depuis 47 ans, hein,
47
par
ans,
rapport aux députés européens qui vont en Turquie et qui décrètent qu'elle peut rentrer en Europe. Moi, ça fait 47 ans que j'essuie les plâtres, y compris dans l'extrême sud-est. Voilà, en culotte courte. J'essuie les plâtres, y compris dans le sud-est.
Alors, également autour de cette table, je salue la présence de Michel de Gégère, qui nous parle, pardon, à la fin de l'émission. D'une initiative que vient d'avoir Renaissance catholique et qui me paraît très heureuse de rééditer l'examen critique. Bref examen critique, c'est ça. Il nous dira ce que c'est précisément, mais c'est un document passionnant et qui montre que dès le début, les gens intelligents dans la hiérarchie de l'Église savaient ce qui allait se passer avec l'adoption du nouvel ordo. Mais également, Michel interviendra peut-être dans notre conversation, parce que c'est un esprit curieux, et bien qu'il m'ait dit qu'il n'était pas un spécialiste de la Turquie et de ces pays-là, il était un journaliste. Donc, le journaliste, vous savez, c'est quelqu'un qui sait rien sur tout et tout sur rien.
Oui, mais les spécialistes sont très louches également. Méfiez-vous des gens qui vous disent « je suis spécialiste de ça ». En général, c'est simplement pour passer devant les autres qui disent ça.
Alors, commençons. Et commençons par le commencement. Comment ça commence, tout ça?
Eh bien, écoutez, on va faire d'histoire, hein, il faut bien. Mais bon, donc ça fait 47 ans que je me rends en Turquie. Je vais absolument dans toutes les provinces, tous les vilayets, comme on dit en turc. C'est le wilaya de l'arabe. Et sans aucune restriction. Je dois dire que les autorités turques sont courtoises avec moi pour le moment, parce que d'abord, ce sont des gens courtois par définition. D'ailleurs, avant de partir pour la Turquie, on peut faire une visite à certaines princesses et princes ottomans de Paris, et ce sont des gens tout à fait distingués. Eux pourraient rentrer en Europe, mais pas les masses qui sont derrière eux. De toute façon, comme ils sont des princes en exil, ils n'ont plus de masse derrière eux. Alors, en histoire, Mustafa Kemal, sur lui l'appel salut, avait décrété que les Hittites étaient les ancêtres des Turcs. C'est facile, comme ça, on se dit être chez soi, il n'y a qu'à revendiquer un ancêtre. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter le château fort du village, faites-vous truquer l'état civil et vous serez chez vous. Alors, après les Hittites, les Phrygiens, vous connaissez la guerre de Troie. La guerre de Troie n'aura pas lieu, mais je ne sais pas si elle n'aura pas lieu. Vous connaissez le royaume d'Urartu, à l'est, c'était Van.
Je suis obligé de vous arrêter parce que, voilà une chose, une des rares choses que je ne connais pas, c'est le royaume dont vous venez de dire le nom.
Ben, Urartu, ça a donné Van, et ça a été jusqu'au massacre. Alors, on l'appellera ou pas génocide, de toute façon, tout le monde ne meurt jamais dans un génocide, donc en fonction des rescapés, on peut dire que ce n'était pas un génocide, ce n'est qu'un massacre. Alors, Van fut une grande ville arménienne, et comme vous le savez, les grandes villes, que celles soient assyriennes, syriaques, grecques, arméniennes, j'ai dû en passer, il y avait même des communautés juives, mais tout ça a disparu, puisque... À partir du monsieur dont on vient de parler, il a décrété tous les habitants de la Turquie sont des Turcs. Et on a éliminé ceux qui ne voulaient pas être Turcs, aussi que ceux qui ne se sentaient pas Turcs.
Ça me rappelle l'histoire du chauffeur d'autobus.
Alors,
vous connaissez l'histoire du chauffeur d'autobus?
Ah non, c'est le moment alors.
Je vous le raconte en deux mots, ça se passe aux États-Unis au moment de l'abolition de la discrimination raciale. Où le busing se faisait, le transport par autobus des élèves se faisait avec à l'avant les jeunes blancs et à l'arrière du bus les jeunes noirs. Et le conducteur rentre en disant « Bon, c'est fini tout ça, maintenant il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus que des bleus. » Voilà. Alors on est tous des bleus. On est des quoi ? On est des bleus, vous avez compris bien. Alors maintenant, montez tous dans le car. Les bleus clairs à l'avant, les bleus foncés à l'arrière. Voilà. Bon. Donc c'est un peu l'histoire des minorités turques.
Alors, les Grecs. Bon, parce que finalement, faut pas oublier que cette Turquie, c'est un lieu, bien sûr, mais c'était quand même l'Asie mineure. Et l'Asie mineure était largement hellénisée, mais avant les Hellènes, il y en avait d'autres, ça c'est certain. Sur tous les territoires du monde, il y a eu quelqu'un avant quelqu'un d'autre. Mais cela étant, ça a été longtemps un territoire grec, on pourrait même dire jusqu'en 1922, du moins il en restait des vestiges. Il n'y a plus que 2000 Grecs à Istanbul, c'est assez affolant si vous pensez qu'Istanbul, ce fut Constantinople et ce fut Byzance. Imaginez qu'un jour à Paris, il n'y ait plus que 2000 Français de souche.
C'est demain ça?
Oui. Non, attendez. Encore, une bonne centaine d'années. Non, parce que ça a mis un certain temps. Une bonne centaine d'années. Simplement, nous serons dans les banlieues dans 25 ans, mais nous serons encore là. Alors, les Romains, mais en dehors de tous ces gens-là, il y avait les Arméniens depuis fort longtemps, il y avait quelques colonies juives, il y avait des Syriaques et il y avait des Assyriens. L'Arménie fut un royaume indépendant, etc. Allons un peu vite et nous arrivons. Alors, on va parler déjà des envahisseurs, parce qu'il faut parler d'ordre chronologique. Il y a eu les Arabes au 7e siècle, les Turcs au 10e siècle, et les Kurdes au 13e siècle, car les Kurdes du sud-est de la Turquie ne sont pas du tout des autochtones, c'est la tribu Hakkari, qui chassait d'Irak, peut-être parce qu'elle avait mauvais caractère, s'est installée dans le sud-est de la Turquie.
C'est un bel euphémisme, ça.
Et vous savez que les Kurdes ont en général 4 femmes et font 40 enfants, surtout en Europe parce qu'il y a des allocations familiales, mais là-bas, ils en font 35. Donc, c'est simplement, oui, il y a moins de panne d'électricité.
La motivation n'est pas uniquement de cet ordre, alors.
Alors, on tombe sur les deux Roms, les deux Césars, l'Orient et l'Occident. C'est toujours un sujet délicat, surtout à Radio Courtoisie. La persécution des chrétiens dans les deux empires romains, puis finalement, Galère, c'est un joli nom, le 30 avril 311 a décrété la liberté du culte pour les chrétiens. Alors, quand on parle de continuité ou discontinuité dans les sièges patriarcaux, il est vrai que pendant ce temps-là, en Occident, c'était l'invasion des barbares. Bon, l'Empire romain, Rumi, l'empereur représentant de Dieu, le christianisme et religion d'État, proscription du paganisme, et vous avez les grands noms, Théodose, la première Sainte Sophie, et puis le couple, j'allais dire idéal, Justinien, et son épouse Théodora, qui était la fille d'un prêtre syriaque de Martine. Bon, et c'est lui quand même qui a fait Sainte Sophie. Or, Sainte Sophie, ça a quand même fait école, puisque toutes les mosquées ottomanes sont faites sur le modèle de Sainte Sophie, quatre piliers, quatre tympans, enfin quatre médaillons, et une coupole, la plus large possible, et souvent, il faut que le sol soit bon, parce que Sainte Sophie a besoin de beaucoup de réparations. Alors, je vous fais grâce des attaques des Arabes, et puis finalement, cet empire byzantin va se trouver attaqué par les Turcs seljoukides. Je vous fais grâce des querelles avec les Persans, il y en a. Les Arabes ont pris la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, l'Égypte, la Cyrénaïque, et cet empire très chrétien, ô combien, se réduit de plus en plus. Les Slaves attaquent dans les Balkans, Péloponnèse, et... Alors, ce qui va compliquer encore les choses, il y a en 1054 la rupture avec la papauté. Bon, ça c'est un problème sur lequel je ne me prononcerai pas, je dirais que c'est comme à la boxe, match nul. 1071, Manzikert, une bataille, alors là, ça, les chrétiens d'Orient s'en voient souvent des vannes, il est vrai que les chrétiens, qu'on a appelés longtemps nestoriens, mais qui recommandent, qui se disent assyriens, étaient du côté contre les Byzantins. Alors, règlement de compte, vous savez, une minorité tout d'un coup prend parti. Alors, faut que j'aille un peu vite, mais là-dessus arrive une deuxième catastrophe, si j'ose dire, après les Mongols, ce sont les croisades.
Les croisades sont une catastrophe.
Ah, non, j'ai dit, là-dessus est arrivée une autre catastrophe après. J'aimerais mieux qu'on ne parle pas ce soir des croisades, parce que je serais obligé de prendre un parti qui ne serait peut-être pas extrêmement laudatif. Alors on va simplement dire ce qu'elles ont fait. Comme vous savez, le 13 avril 204, la quatrième croisade, Boniface de Montferrat et le doge de Venise, Henri d'Andlau, ils se sont livrés au pillage, au carnage, viol. Ils ont volé les vases sacrés.
Ils avaient bien payé les bateaux de la Sérénissime.
Il y avait une affaire financière derrière ça. C'est que les Vénitiens... c'est Zadar. À Zadar, on s'est payé de ce que les Vénitiens ne voulaient pas payer. Enfin, je dirais que la quatrième croisade, je sais bien qu'un bon catholique doit dire qu'elle était aussi bonne que les autres, mais quand on n'est pas très bon catholique, on est obligé de dire qu'elle fut détestable. Et pour les Byzantins, ils considèrent le 13 avril 1204 comme le jour le plus important vers la chute de Byzance. C'est un peu comme quand je vais dans les monastères serbes au Kosovo, ils me disent « Nous sommes encore là, nous attendons le siège final, mais en fait, on nous a tués avec l'expédition de l'OTAN. » C'est ainsi. Alors, les Grecs se révoltent évidemment contre ce Baudouin de France qu'on leur colle, etc. Quand on vous colle un empereur halogène, ça marche jamais très bien. Bon, je vous fais grâce de beaucoup de choses. Je vous fais quand même état de la guerre, la bataille du Kosovo, Kosovo-Polie, le 28 juin 1389, car ça ouvre la porte des Balkans à l'Empire ottoman. Je vais aller un peu vite, parce que ça, tout le monde devrait le savoir, mais on l'enseigne de moins en moins, puisque vous savez que l'enseignement en France reçoit sans arrêt des directives. Moi, je suis pas prof d'histoire, je suis prof d'analyse musicologique, mais les profs d'histoire reçoivent sans arrêt des directives. On doit enseigner ce que le ministère vous dit d'enseigner. Alors, pour la guerre de 39-45, c'est, vous devez enseigner le verdict de Nuremberg. Pour l'Empire ottoman, on va bientôt nous interdire de parler de tout ce que les Turcs ont fait de mal. Ils ont peut-être fait des choses bien, mais on ne pourra plus parler de ce qu'ils ont fait de mal. Alors j'en profite très vite avant d'être censuré. Là-dessus, après le 13 avril 1204, il y a quand même une autre date qui marque, c'est le mardi. 29 mai 1453, alors on sait que la flotte, ça c'était magnifique, la flotte ottomane est passée par la colline de Tepebaşı, elle a réussi un exploit, évidemment il a dû avoir beaucoup de morts, mais vous savez quand vous avez beaucoup de main d'œuvre, vous donnez des coups de fouet et puis ça fait avancer, c'est un peu comme dans les films sur l'Antiquité, et... Alors je dois dire que l'empereur a une conduite héroïque, il a prévu dès le début qu'ils seraient tous massacrés, et il est mort au combat, ce qui est une mort honorable pour un empereur assiégé qui avait été trahi par tout le monde, il avait demandé vainement des secours à l'Occident, on ne lui avait pas donné. Là-dessus, Fatih Sultan Mehmed, parce qu'il y a la légende turque par laquelle le glorieux empereur ottoman pardonne à tout le monde, c'est pas vrai, il y a eu carnage, il y a eu pillage, et il est entré à cheval dans Sainte-Sophie, et il a fait évidemment ce que j'aurais fait à sa place si j'avais été l'empereur musulman, il a dit « tu seras mosquée ». Et Sainte-Sophie n'est jamais redevenue basilique, je le regrette, mais c'est ainsi. Alors, il a nommé un nouveau patriarche orthodoxe, c'est un peu comme en France quand on vous nomme un représentant des communautés musulmanes. Un souverain autoritaire a besoin d'avoir un interlocuteur qui lui obéisse. Alors, nouveau patriarche. Et là-dessus, je vous propose, puisque c'est la fin de l'Empire ottoman, d'entendre l'hymne, évidemment c'est un hymne orthodoxe, à la chute de Constantinople.
C'est... Allah, Allah. Allah, 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 Allah.
Την ίντια είπ και εις τους αιώνας τον αιώνων αμήν.
Μακαρίζομεν σε Θεοτόκε Παρθένε και δοξάζομεν σε η πιστή κατά την μόνη την άσυστον το τείχος το αρήκτον την αραγή προστασίαν και καταφύγη των ψυχών
Macarizomes et Teotoke Partene.
Au cas où vous auriez des doutes, vous êtes sur Radio Courtoisie.
Toujours. Oui, alors le début, quand vous entendez Allah, Allah, Allah répété plusieurs fois, c'était pas le début de Macarizomes et Teotoke Partene, c'était la fin du bourgeois gentilhomme de.
Oui, mais ça tombait bien, parce qu'on on déplorait la chute de Byzance, et c'est devant les cris de ces hordes, mais là ce sont des comédiens, évidemment, c'est pour le bourgeois gentilhomme, mais c'est devant les cris Allah, 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 ou Akber, ben avec l'accent turc, Akber.
Mais j'ai vu au regard de Franck que s'il avait été un musulman armé d'un cimetière, votre tête ne serait pas aussi longtemps sur vos épaules. Alors, on était en 1453, on va faire un tout petit saut jusqu'à François Ier.
Oui. Alors, François Ier...
Et vous n'aimez pas non plus tellement François Ier?
Oh, je n'ai rien contre François Ier, ce fut un grand roi. Mais je me demande... Je me demande si les Turcs ont raison de parler de son amour de la Turquie. Disons que François Ier a eu des démêlés toute sa vie avec la maison d'Autriche, enfin Charles Quint, grosso modo. Alors, quand on veut embêter quelqu'un, c'est un peu comme la France quand elle envoie des armées libérer les Américains des Anglais. Faut toujours se méfier de ce genre de geste. C'est pas parce qu'on est contre son voisin qu'il faut aider le tiers. Mais c'est ce qui s'est passé. Il a donc été prisonnier à Pavie, le pauvre. C'était un homme valeureux. Et prisonnier à Pavie, ben, il a été obligé de faire une alliance avec le grand turc. Et cela étant, il a eu quand même, il a fini par faire l'alliance pour de vrai, puisqu'il était veuf de Claude de France et il a trouvé le moyen d'épouser Éléonore. Autrement dit, il s'est réconcilié avec Charles Quint. Enfin, c'était sympathique, cette époque. On épousait la fille de son ennemi, mais on continuait à faire la guerre. C'est un peu ce qui se passe à la guerre de 14 entre Anglais et Allemands. La couronne anglaise est un petit peu germanique. On se bat contre son cousin, si je comprends bien.
Victoria est un... Il a bien épousé un chaudron et continue à faire la cuisine.
Alors, c'est dans les cuisines qu'il y a les plus grands. Alors, évidemment, là aussi, les Turcs s'en gargarisent. Une escadre franco-turque s'empare de Nice. Mais écoutez, je ferai remarquer à nos auditeurs qui sont des gens très cultivés qu'à l'époque, Nice n'était pas à la France, puisque Nice et la Savoie, c'est l'histoire de la guerre. Enfin, c'est après Solferino. On ne sait pas comment remercier la France. On lui donne quelques arpents de neige sur la Côte d'Azur.
Non, ben, cela, j'aurais pris volontiers.
Oui. Il valait peut-être mieux que ceux de Voltaire. Alors là-dessus, c'est quand même un grand roi puisqu'il a remplacé le latin par le français dans les actes publics et il a créé les registres des parois. Et pour moi qui suis universitaire, il a quand même ouvert le Collège de France. Alors moi, je pense que François Ier était un grand roi.
Et vous savez qu'il a été le premier à faire un chevalier nègre.
Je connaissais le chevalier de Saint-Georges, là, sous Louis XVI,
non, mais
qui
avant,
est un compositeur à la peau noire.
Avant Saint-Georges, il y a eu un chevalier, à l'époque, qui a été adoubé par François Ier, qui était un nègre.
Ben, nos rois étaient moins racistes que la République du XIXe siècle. Ben, ils ne faisaient pas de guerre coloniale. Enfin, c'est ainsi. Alors, à chacun son temps. Alors, à partir, malgré tout, François Ier a été, à mon avis, un grand roi de France. Son alliance avec la Turquie a laissé des traces en ce sens que la France est restée jusqu'à Clémenceau. On voulait toujours la peau de la maison d'Autriche, par un procédé ou par un autre. Alors, je vous ferai remarquer qu'à la fameuse bataille de Lépante, 1571, là, j'y mets note, évidemment. Je connais pas par cœur la date de la... Elle s'est faite sans les Français. Eh ben non, je connais la prise de Constantinople par les croisés, je connais la prise de Constantinople par les Ottomans, je connaissais pas par cœur la date de Lépante. Et si c'est le 6, alors c'est marqué sur mon papier le 6 octobre 1571. Là-dessus, nouveau truc où les Français n'en sont pas, si j'ose dire. 1683, le 12 septembre, la prise de Vienne. Mais la prise de Vienne, pas par les Turcs qui la siègent, mais la contre-offensive. Alors c'est dû à un Serbe, un dénommé Kulchiski, qui vendait du bétail à l'armée ottomane et qui a, paraît-il, donné les plans du camp de Kara Mustafa Pacha, dont vous trouverez à Vienne sur le Kahlenberg, vous trouverez là sa tente, n'importe quoi, à moins que le pape lui ait rendu, parce que le pape rend tout, alors il a peut-être rendu aussi la tente de Kara Mustafa Pacha. Et c'est Jean Sobieski, alors les Polonais, évidemment, pourfendeurs de musulmans, du moins à l'époque, et vous savez, c'est de là datent les croissants. On a fait les petits pains en forme de croissant, parce que c'est un boulanger qui avait entendu les Turcs creuser le souterrain, et c'est de là que date le café. La région Le Procope, ça s'ouvre parce qu'on a fauché le café et les chameaux de Kara Mustafa Pacha et ça a permis à l'Europe de découvrir le café. Là-dessus, j'en dirai pas plus. On ne parlera plus guère de Kara Mustafa Pacha. Alors, vous avez Bonaparte qui va chatouiller Selim III. Selim III n'aime pas la guerre, il n'y connaît pas grand-chose. Il aime l'art, il est homosexuel, on peut le dire maintenant parce qu'avant ça aurait été. Oh, les rencontres entre monarques ne sont pas toutes aussi pures qu'on dit, mais enfin, vous savez, on dit beaucoup de choses et la vérité est un plus clairsemé que le... Comment dirais-je ? La médisance est un tapis dans lequel la vérité n'est qu'une frange, à peu près quelque chose comme ça. Alors Bonaparte, donc, suivant sa bonne habitude, il emmène les soldats, il gagne 2-3 victoires, puis il abandonne l'armée, il revient en France en chercher d'autres.
Oh, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a ça, mais en fait, la vérité, c'est parce qu'il ne pouvait pas rentrer en France directement.
Il n'avait plus de bateaux.
Oui, mais les Anglais lui avaient tout fauché en Égypte.
Oui, mais pour la retraite de Russie, il avait encore des bateaux, mais ça. Simplement, il pataugeait dans le dégel. Et vous savez, le dégel, c'est pire que le grand hiver, mon foi. Bon. Alors, 1821, tout d'un coup, la France revient sur le front, si j'ose dire, le front, et voilà l'insurrection grecque. Ah. Alors là, la France en est donnée à cœur joie. Vous savez, c'est comme ces grandes campagnes de presse, les Kosovars, ou bien les Kurdes, ou bien je sais pas quoi, les Tchétchènes, et... Là, c'était peut-être pour la bonne cause, mais c'est pas toujours pour la bonne cause. Mais toujours dit qu'il y a un courant d'opinion pour les Grecs fantastique. Je dirais qu'à l'époque, la France s'intéressait quand même aux chrétiens orthodoxes opprimés par l'islam. Je voudrais bien que cela continue. Et alors, vous connaissez Victor Hugo, l'enfant grec, c'est interdit maintenant l'enseignement. Je veux de la poudre et des balles, disait l'enfant grec. Alors maintenant, c'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut qu'ils disent, les Turcs sont arrivés, ils sont les bienvenus et pas de racisme anti-turc. Vous avez un autre mauvais coup, d'ailleurs, qui me rappelle un peu l'histoire d'Ukraine. C'est la guerre de Crimée.
Oui, ça,
parce que la guerre de Crimée,
c'est pas un titre de gloire pour l'Occident.
Non, je crois que les Russes se disputaient avec les Ottomans pour les lieux saints. Alors du coup, la France, l'Angleterre et l'Empire ottoman, qui ont dû trouver des raisons du genre, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Enfin, vous connaissez les trucs de l'Alliance franco-russe. Alors on a dû nous dire que l'Ottoman, c'était notre frère séparé, etc. D'ailleurs, c'est assez amusant. Je crois que c'est au moment de la guerre de Crimée, 1856, que le pape aurait décrété le dogme de l'Immaculée Conception.
C'est pas directement lié, je pense, mais c'est
non,
bien.
Non, je pense pas. Parce c'est que bien l'époque de Sébastopol. C'est Casanova qui m'a dit ça. Vous savez, Casanova connaît toutes les dates.
Je ne trompe jamais Casanova. Dans une date.
Ah, Casanova, il m'a pas donné l'heure, mais il m'a donné le jour, le mois et le calendrier. Bon, là-dessus, la France intervient au Liban. C'est une des dernières interventions de la France en faveur des chrétiens, 1860. Elles se feront plus rares. Alors, ce qui est intéressant dans l'Empire ottoman, c'est qu'en 1839, il y a le Tanzimat du temps du Padishah Abdulmejid qui décrète l'égalité de tous les sujets, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, à condition qu'ils soient sujets ottomans, évidemment. Et en 1840, l'émir Bader Khan, qui est un émir kurde, s'empresse de massacrer 10 000 Chaldéens et Assyriens dans la région de Silopia, à Bourtane. Vous voyez que dans l'Empire ottoman comme en France, les lois antiracistes se sont immédiatement appliquées. C'était, alors évidemment, vous direz que l'Empire ottoman à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas des tas de choses, et le padishah n'était peut-être pas censé. Mon frère, il devait bien le savoir au bout de 15 jours ou 3 semaines. Enfin, c'est comme ça. Là-dessus, on a tous entendu parler du panislamisme, Abdul Hamid, l'homme aux yeux cernés, etc., voûté sous son fesse rouge et dans son uniforme bleu et doré. Et évidemment, ils ont commencé les massacres de chrétiens. Mais ce qu'on nous dit moins, c'est que au moment où la guerre de 14 a éclaté, le padishah Rechad, Mehmed V de sa dynastie, a proposé de massacrer, et par écrit, c'est un firman, il a proposé par écrit de massacrer tous les chrétiens de l'Empire. Et c'était pas mal. Le 24 novembre 14, mais attention, il y a des histoires entre calendrier grégorien et calendrier julien, et on n'arrive jamais à savoir si c'est le 24 novembre ou 13 jours avant ou 13 jours après. Bien. Et cela s'est fait, les Kurdes du Sud-Est, parce que les Kurdes du Sud-Est sont des gens qui aiment bien l'autonomie à tout moment de leur histoire. Alors, ils sont empressés d'encercler les églises et les villages chrétiens. Et puis, les chrétiens sont restés assiégés dans un village qui s'appelle Ainwerk, par exemple, mais dans 50 villages, dans 100 villages. Et puis, finalement, les Kurdes se sont dit, mais après tout, on nous demande de massacrer les chrétiens. Ça nous permettrait de disposer de leurs terres, de leurs biens. Mais on ne nous envoie pas de renfort. Par le pouvoir central a proposé de massacrer tous les chrétiens, mais il n'a envoyé ni crédit, ni armes, ni encouragement. Donc au bout de 2 mois, entre les archevêques, les évêques et les Kurdes, on a fait la trêve. Et voilà. Là-dessus, je vous passe la guerre de 14, le massacre des Arméniens qui commence le 25 avril 1915, le massacre des Assyriens en 17, on en parle beaucoup moins, mais il est tout aussi indiscutable. Et là-dessus, l'Empire ottoman va disparaître. Ben, faut dire que le pauvre empereur, qui était un homme très distingué, il arrive au pouvoir deux mois avant de capituler. Il était encore au courant de rien et il accepte le traité de Sèvres. Alors là, je vais vous proposer de la musique, puisque c'est la fin de l'Empire ottoman. C'est une composition d'une princesse ottomane qui s'appelait Geveli Sultan. J'ai bien connu, elle jouait très bien du tanbur. Tanbur, c'est une espèce de luth à manche long. Et elle a composé ce morceau qui s'appelle Bashka Bi Alem, dans un autre monde.
on s'y ferait presque. Hein. On s'imagine dans les jardins de Byzance, avec les, pendant que les fontaines déversent des flots d'eau fraîche et bleutée, que les rossignols chantent dans les frondaisons, tout ça, c'est avec des jeunes houris qui passent avec leur robe transparente.
Avec des plateaux chargés de gâteaux
au miel, exactement. Ah,
arrêtez.
Un petit coup de raquis par-dessus, ça ne peut pas faire de mal, quoi.
Mais vous avez raison, parce que le classique ottoman, c'est évidemment, de même que la mosquée ottomane, c'est Sainte-Sophie repensée, mais grosso modo améliorée, car les Turcs sont très bons à l'exécution. Le classique ottoman, c'est du byzantin évolué, et d'ailleurs ils ont évolué. Et quand vous allez dans une église grecque, vous entendez du classique ottoman, si j'ose dire, chanté en grec, et quand vous entendez du classique ottoman à la radio ou dans un concert turc, vous entendez du byzantin chanté en turc. Ce sont les mêmes modes musicaux.
Mais d'ailleurs, à Paris, la plupart des restaurants en grec sont tenus par des Turcs. Donc,
Ah, là, j'ai beaucoup de méchanceté à dire sur les Turcs, mais pas sur la nourriture ni sur l'hôtellerie. Ils sont très bons hôteliers, bons restaurateurs. Non.
Alors, on arrive, en revanche, là, vous allez pouvoir donner libre cours à votre méchanceté naturelle. C'est, on arrive à Mustapha Kemal, qui est pour, oui, personnage pour qui vous avez beaucoup d'amitié, je crois.
Écoutez, c'est un homme qui, sans doute, n'a jamais souri, n'a jamais ri. Donc, un psychiatre ou un psychanalyste vous dirait chercher le rapport avec la mère. Bon, il y a eu quelque chose dans l'enfance de Mustapha Kemal, car cet homme n'était pas tendre. Intelligent, oui. Bel homme, oui. Brachycéphale, il paraît que dans son... comme il était brachycéphale, il avait décrété que les vrais Turcs étaient brachycéphales, comme les Autrichiens.
Non, bon,
pourquoi pas. Bon, cet homme qui n'a jamais ri a inventé une formule que vous retrouvez sous ses statues partout en Turquie. « Nemutlu Turcum diyene », comme il est doux de se dire « je suis turc ». Et ça, on met ça partout, et surtout quand il y a des minoritaires, assyriens, chaldéens, grecs ou kurdes, on en met partout. C'est écrit sur les collines du sud-est, en lettres qui font 5 mètres de haut et 3 mètres de large, « Nemutlu Turcum diyene », comme il est doux de se dire « je suis turc ». C'est un peu comme si en Corse, on écrivait sur toutes les collines de Corse avec d'immenses lettres, « comme il est doux de se dire « je suis un citoyen français du continent ». Enfin, je sais pas quoi, il faudra un peu provoquer les Corses. Alors, bon, il est contemporain de Lénine, de Reza Shah, il a refusé le traité de Sèvres. Oh, évidemment, c'est le même rôle que De Gaulle. Faut toujours refuser, faut toujours dire que il a dit l'Empire ottoman a perdu une bataille, mais la Turquie n'a pas perdu la guerre. Enfin, il n'a pas dit ça, mais c'est ce qu'a dit un autre. Et évidemment, quand un peuple a été humilié, s'est fait écraser par des armées ennemies, on a toujours le beau jeu de dire ça. Alors, il a réussi par une... prodigieusement aidé à la fois par la Russie bolchevique et par l'Occident, à récupérer tous les territoires que le traité de Sèvres donnait à des contrôles occidentaux, aux Kurdes ou aux Arméniens. Et finalement, en 23, alors les Français ont joué un rôle assez louche, car les Français ont une défaite à Marache le 30 juin, ou mai 1920, et ils ont fait la trêve de Pozente en 21, qui a permis à Mustapha Kemal d'envoyer toutes ses troupes sur les Grecs, d'écraser les Grecs à la victoire de Dunlupinar, etc. Je vous fais grâce des noms des victoires. Et finalement, de prendre le pouvoir, de se faire nommer président. Et alors, on a, à force d'indulgence, on a tout toléré, on a tout rendu à la Turquie. Puis alors, son rôle a beaucoup plu, comme celui de Reza Shah, parce que il avait aboli le califat, il avait laïcisé, alors là, la laïcité, bon, on en parlera tout à l'heure, il avait laïcisé l'enseignement à la justice, mais il avait réprimé dans le sang la révolte islamiste de Sher Saïd. En fait, je crois qu'il n'aimait pas les religions parce qu'il ne voulait pas avoir un autre pouvoir à côté du sien. C'est le cas de beaucoup de dictateurs. Les dictateurs ne pactisent avec la religion que si elle est à leur service. À partir du moment où il fait un contre-pouvoir, ça ne va plus.
Je me souviens d'avoir appris à l'école qu'il avait réglé le problème des couvre-chefs religieux avec une certaine, un certain dynamisme. Enfin, il avait dit toute tête coiffée d'un fez sera coupée.
Oui.
C'est curieux, ça a été beaucoup plus efficace que la loi contre le voile en France, pour des raisons que
pas. Il a aboli les ordres religieux, il a aboli les costumes religieux, c'est pourquoi les prêtres en Turquie sont toujours en complet noir avec une chemise blanche et une cravate noire, mais les chers musulmans pareil. Il a aboli le fez, ce superbe fez rouge qui ressemblait un peu un fétou incliné sur la tête. Enfin, il a aboli tous. Et lui, il a porté à merveille le canotier. C'était l'époque du canotier. Tous les messieurs distingués portaient le canotier. Il a rendu obligatoire le mariage civil, mais je dois dire, dans le sud-est de la Turquie, la polygamie religieuse persiste jusque maintenant. Les gens ont quatre femmes, ils n'en ont qu'une à la mairie, mais ils en ont trois autres chez le cheikh, le hodja. Et c'est pourquoi ils font 35 enfants et 40 en Europe occidentale, parce qu'il y a des allocations familiales.
Alors,
oui, j'aime bien les allocations familiales. J'ai pas eu beaucoup d'enfants, mais je trouve que c'est bien les allocations familiales. Et puis quand la rentrée scolaire arrive, il y a la prime de rentrée, on voit les paraboles qui fleurissent sur les balcons, parce qu'il faut bien que la prime scolaire serve à quelque chose. Alors, il a supprimé les concessions étrangères, nationalisé, enseignement obligatoire, mais il n'y a pas d'école dans le Sud-Est, il n'y en a pas eu pendant très longtemps, et les Kurdes n'envoient pas leurs filles à l'école. Et vous voyez, c'est dur, on peut faire des écoles, mais encore faut-il que les gens les fréquentassent. Bon, ou faudrait-il, pardon, là j'ai fait un peu de cuistrerie. Alors, je vous fais grâce de tout ce qu'il fait, et finalement, on arrive à la guerre du Golfe, massacre de chrétiens par les Kurdes, allègrement. Les Kurdes sont d'excellents, ils aiment bien terminer le boulot. C'était pareil pour les Arméniens. Les Turcs envoyaient les Arméniens à coups de baïonnette jusqu'à Diyarbakir, Mardin, des quoi comme ça. Et les Kurdes terminaient au couteau. Vous voyez, donc c'est quand même une symbiose. La symbiose turco-kurde n'est pas une symbiose inutile. Elle a des effets réels. Alors là-dessus, ben, on va un peu quitter cette histoire. Je voudrais vous dire en terminant, oui, en fait, de laïcité turque, le pauvre père curé de Marie, Mère de Dieu, église à Diyarbakir, il n'y a plus que les Syriaques orthodoxes, tous les autres se sont sauvés, je reconnais. Quand j'ai connu Diyarbakir, il y avait encore des églises d'autres confessions, mais maintenant, il n'y a plus que les Syriaques orthodoxes qui tiennent le coup. Alors, il a quand même été traduit devant le tribunal pour avoir dit que lors des massacres de 1915, les Turcs avaient massacré des chrétiens. Vous voyez que la laïcité turque, c'est quelque chose de vrai, parce que c'était un homme de religieux qui incitait à la haine religieuse et au fanatisme.
C'est une espèce de révisionniste, en fait.
Oui, non, mais c'est dégoûtant. Écoutez, on n'a pas le droit de dire ça. Dans un pays laïque, la laïcité n'est jamais transgressée. Et dans un pays religieux, comme vous savez, la religion non plus. Bien, là-dessus, je vais vous proposer, puisqu'on enterre l'histoire de... Alors, je vais vous faire chanter une dame qui est morte depuis un certain temps, mais qui avait un gazouillis d'oiseaux. Alors, après le classicotement, vous verrez qu'on peut faire encore de la chanson. Elle est de 1900, cette chanson, elle est même de la guerre de Crimée. Et ça s'appelle « En allant à Üsküdar ».
Oui, alors on a beau dire, mais ce qu'on a entendu jusqu'à présent, tant sur le plan du survol historique, magnifique synthèse, nous dit d'ailleurs une auditrice, que sur le plan musical, on ne peut pas vraiment dire que comme Chirac, on se sent tous des enfants de Byzance.
Ah, de Byzance, moi je veux bien. Moi je suis enfant, moi. Je veux bien être descendant de Justinien et de Théodoras.
Oui, mais je pense que c'est pas à ça qu'il faisait allusion.
Ah bon? Ah, Chirac, il se sent des enfants de Diyarbakir, oui, enfin de...
Oui, c'est plutôt ça. Alors, moi, quand on entend cette ravissante chansonnette, là, qui est à peu près... de l'époque de...
La guerre de Crimée.
La Crimée, oui. Alors, c'est à qui on pourrait comparer cette dame en France à la même époque Allez savoir.
C'est un petit gazouillis, oui, fin 19e voilà, siècle.
Il n'y avait pas beaucoup de gazouillis fin 19e, mais enfin, vous nous avez dit hors micro que ça racontait l'histoire de la,
on
la
pourrait
passion.
Comparer Jane Birkin, mais elle, au moins, elle oui, s'est chantée.
Jane Birkin, avec un siècle de plus, là, c'est quand même. Alors, on nous disait que ça racontait la passion amoureuse d'une femme qui est derrière sa mouchoir à billets, qui voit passer tous les jours un chef de bureau.
Oui, alors, le monsieur est habillé à la façon de l'époque, donc jaquette, pantalon rayé, souliers vernis noirs, guêtres couleur souris, faux col cassé, cravate jabot et fesses sur la tête. C'est ce qui caractérisait les Ottomans. Ils étaient entièrement habillés à l'européenne. Ils étaient d'ailleurs peut-être beaucoup plus européanisés que les Turcs du 20e, 21e siècle, les Ottomans. Du moins, les riches, les princes, les princesses. D'ailleurs, on envoyait les princesses chez les bonnes sœurs et les princes chez les bons pères, vous voyez.
En fait, ce qui est de moderne, ce qu'il y a de moderne dans cette chanson, c'est une histoire de fesses. Hein,
c'est oui. La tête, comme j'aime bien. Oui.
Bien. Dans alors, les paroles, alors il laisse, enfin il y a une histoire, je ne sais plus qui laisse tomber son mouchoir, elle a trouvé le mouchoir, elle met des locums dans le mouchoir, enfin c'est une sorte de message, mais ça reste très sucré, hein. Ouais. Non, bah, c'est une histoire de fesses, le locum c'est quand même tout ce qu'il y a de virginal, hein.
C'est une auditrice qui vous demande, faut-il croire Isaac et Malais qui assure que
d'abord, on dit Malais, Isaac.
Moi, j'aime mieux Isaac et Malais.
Vous direz pourquoi,
collection Imal. Bah non.
C'est pas l'ordre alphabétique.
Enfin, bon. Allons, continuons. Et assure que Théodora était la fille d'un montreur d'ours.
Non, c'était un prêtre syriaque de Mardine. Non, c'était une fille. Attention, c'était un homme du peuple. Un prêtre syriaque orthodoxe de Mardine, à l'époque de Théodora, c'est pas un gentilhomme. Il a une petite église, il a 300 fidèles. Non, on a reproché à Théodora d'avoir eu quelques légèretés avant d'être impératrice. Mais ça donne de très bonnes impératrices. Elle connaissait la vie, elle connaissait son peuple. Surtout,
je crois que le marquis veut dire quelque
non,
chose.
Non.
Je pensais que vous aviez une indécence au bord des lèvres.
Ça m'arrive.
Alors Istanbul. On arrive à Istanbul maintenant.
Oui. Alors Istanbul. Je dois dire Istanbul. On peut dire comme pour Paris, Istanbul n'est plus ce qu'elle était. Alors, moi, j'ai la chance de connaître Istanbul en 56. On y parlait encore un peu grec. On entendait un peu parler arménien. Mais alors la turquification et l'islamisation d'Istanbul est effarante. Cette ville, Atatürk la détestait. Parce qu'on dit qu'Atatürk, quand il était jeune, évidemment, il fréquentait des lieux, on va dire, où l'homme peut vérifier sa virilité, tant face à l'amour que face à aux certaines boissons. Bon, c'était un homme dans toute la force de la virilité. Alors, il avait demandé la main d'une princesse ottomane, et c'est ce qui fait les révolutions. On a fait une enquête. Je crois que la princesse ottomane en question est morte à Paris et pas très loin d'ici. Vous ne direz pas quelle rue, parce que sinon il y aurait des recoupements. Bon, alors évidemment, on lui a refusé la main de la princesse ottomane et toujours, c'est ça qui fait sauter une dynastie. Si vous prenez nos révolutionnaires, combien en avait-il qui avaient... Même Voltaire, c'était parce qu'il s'était fait bastonner, je ne sais quoi. En général, refuser la main d'une princesse à un officier, c'est faire un révolutionnaire.
Il vaut mieux lui couper la tête à l'officier.
Ah, il avait quand même gagné la bataille des Dardanelles, du moins c'est ce qu'on lui attribue, et par rapport à un certain Charles, que certains appellent Charles XI en France, il était certainement meilleur militaire.
Ça, il n'avait pas grand mal, non ?
Parce que nous sommes méchants.
Franchement.
C'est le Mustapha Kemal de la France et on dit qu'il était mauvais militaire. Alors, on arrive à Istanbul, à l'aéroport. Alors, tout de suite, les statues du Gazi. Gazi, ça veut dire c'est un chef militaire musulman. Bon, c'est ce qu'il a été. Il est toujours brachycéphale. Vous remarquerez qu'il est bien construit comme un Turc. Il a les jambes courtes et le tronc très long. Sur toutes les statues, ça se remarque. Alors moi, au début, j'étais étonné. Je disais, mais pourquoi a-t-il un veston aussi long ? Non, c'est parce que les Turcs sont faits comme ça. Les Grecs aussi, ça peut vous consoler. Alors, l'absence de Byzance a été dénoncée par un auteur qui avait fait un livre qui s'appelait La Petite Planète, dans La Petite Planète, la Turquie. Il y a 500 mosquées qui sont, en général, de style byzantino-ottoman. Donc, une coupole, 4 médaillons, 4 piliers, et voilà, une croix grecque. Mais elles sont très belles. Il faut dire les mosquées de Istanbul sont magnifiques. Alors la pauvre Sainte-Sophie, puisqu'il est rentré à cheval et qu'il a dit ce soir à mosquée, Mustafa Kemal, qui n'aimait pas les religions, pas plus l'islam que... avec le judaïsme, il avait quelques faiblesses. Mais christianisme et islam, non, ça le gênait. Alors, il l'avait transformé en musée, mais Menderes, vous savez, les hommes politiques, ils aiment bien faire plaisir au peuple. Alors Menderes, il a remis d'énormes macarons sur du cuir de chameau, où vous voyez le nom, en caractères arabes, c'est normal, des quatre califes, les quatre premiers. Qu'est-ce qu'on voit encore? Alors évidemment, il n'y a plus d'hôtel. On refait, je crois que c'est l'UNESCO qui est dans l'affaire, on refait la coupole à la musulmane, on laisse quand même le Christ de l'exonartex, parce qu'on ne va pas le démolir, il a pendant longtemps été badigeonné en blanc, on le laisse. Bon, je vous laisse passer les centaines de petites églises grecques abandonnées, murées ou dévastées, ça ressemble à l'Union soviétique. Vous savez, quand on allait en Union soviétique, on voyait un atelier, puis en regardant, on disait, mais c'est une église. Alors, c'est un peu comme ça. Cela étant, faut dire que comme tous les Grecs ont fui, et entre 56, l'année où je découvre Istanbul, et maintenant, c'est effarant le nombre de Grecs qui sont partis vivre en Grèce, parce que la vie... En Turquie, il faut être musulman et turc, ou du moins se croire turc si on ne l'est pas. Alors, on peut se croire turc, mais c'est un... Alors, il y a quand même des minorités chrétiennes en voie de disparition. Il y a un fanar. Le fanar, c'est le siège du patriarche, Bartholoméos, qui vit un peu assiégé, que je vais voir chaque année. Il y a les orthodoxes...
Mais c'est pas lui qui s'est tué en hélicoptère récemment?
Non.
Ah non,
non. C'est un autre. C'est l'ethnarque d'Égypte, non?
Je crois que c'est l'archevêque d'Athènes.
C'est possible. Alors, il y a des Arméniens. Alors, il en reste pas mal, 40 000 Arméniens. 35 églises grégoriennes et 15 églises catholiques. Vous savez qu'en Orient, il y a eu des ralliements à Rome. Donc, les Arméniens restés fidèles à l'origine sont les Grégoriens. Et ceux qui sont ralliés au Vatican sont les Arméniens catholiques. Ils ont un patriarcat. Un patriarche, évidemment, comme tous les patriarches, c'est comme en France, il faut qu'il y ait l'agrément du président de la République. Donc, le patriarche est toujours critiqué par la communauté. On dit, s'il est là, c'est parce que le gouvernement l'a bien voulu. Il y a des Syriaques orthodoxes, en général réfugiés du Sud-Est, puisque les Kurdes les massacrent ou les chassent. Il y a des Latins italiens. Alors là, on a des privilèges. À Saint-Antoine de Padoue, ils ont droit aux cloches. C'est la seule église, à ma connaissance, qui est droit aux cloches, c'est Saint-Antoine de Padoue. Mais il faut dire que l'Empire ottoman adorait les Européens. Il aimait bien les catholiques, il n'aimait pas les orthodoxes.
Il faut dire aussi que Saint-Antoine est vénéré en terre musulmane, non?
Oh, pourquoi pas? Il n'est pas le seul, d'ailleurs.
Non, non.
Mais je ne savais pas. Hein. Vous m'apprenez quelque chose, ça m'intéresse.
Oui, oui.
Bon, écoutez, quand je voyais en Irak, il y avait Saint-Mathieu, le couvent syriaque orthodoxe, les femmes musulmanes, ils venaient demander la fécondité. En général, vous savez, quand un saint est réputé faire du bien, les musulmanes et les musulmans n'ont pas peur d'aller lui demander quelque chose. Je connaissais une princesse ottomane à Paris, elle cherchait un appartement, elle mettait des cierges à Saint-Antoine dans toutes les églises par lesquelles elle passait.
L'appartement, bon. Elle devrait plutôt essayer Saint-Rita, c'est bien.
Oui.
Saint-Antoine est quand même pas mal occupé par ailleurs.
Mais Saint-Rita, c'est la patronne des Tziganes, non? Ou c'est Sainte-Sara?
Ah non, non, Sainte-Sara, oui.
Sainte-Sara. Saint-Rita, elle est patronne de quoi?
Des causes désespérées.
Oh, bah écoutez, on va avoir de plus en plus de
trouver un appartement à Paris, c'est un peu ça.
Oui. Alors, il y a des Chaldéens, dont 4000 réfugiés d'Irak et du Sud-Est, toujours même chose, ils sont massacrés par les Kurdes, alors ils viennent à Istanbul. Et en général, ils sont ailleurs, les Chaldéens. Alors, si vous voulez vous refaire raccourcir un pantalon ou vous faire un complet sur mesure, allez voir les Chaldéens d'Istanbul ou même à Paris. Même à Paris, les Chaldéens sont toujours
ailleurs. Ceux-là, ils sont doublement
ailleurs. Comme vous dites. Alors, vous savez que les Assyriens qui avaient fui devant le massacre kurde en 1917, qui sont allés à pied du sud-est de la Turquie à l'Irak, alors Mustafa Kemal...
Je le sais d'autant mieux qu'on a publié pendant plusieurs décades des papiers extrêmement intéressants de notre chroniqueur religieux qui s'appelle l'abbé Guy Marie, et qui raconte, qui nous rapportait le récit que faisait une de ses paroissiennes, qui est arménienne, et qui a vécu ça quand elle était toute petite fille, et qui se souvient parfaitement de ce qu'elle a vécu.
Ah, c'était atroce. Une femme accouchait, on la faisait repartir à coup de baïonnette, ouais. Et on donnait un coup de baïonnette dans les...
Non, c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup d'avantages à accueillir les Turcs dans l'Europe, ça va mettre un peu d'animation.
Oui, puis ça va nous faire 100 députés. Non, c'est une très bonne chose, d'ailleurs. Bonne idée. Comme a dit, écoutez, Chirac l'avait dit pour les Algériens et les autres, l'islam est une chance pour la France. Alors, écoutez, on va pas contredire un homme aussi cultivé que M. Chirac. Puis tous ces hommes qui découvrent la Turquie en 3 heures du haut du Hilton et qui reviennent en disant la Turquie. Il y en a un qui revenait de Bodrum, un homme politique. Il a dit, moi, je reviens de Bodrum, j'ai passé les vacances, j'ai bu tout le raqueux que je voulais, j'ai mangé tout ce que je voulais, les feuilles de vigne farcies. On peut dire que la Turquie est un pays européen.
J'ai même pu téléphoner à Paris.
Oui. Non, mais à Marmaris, à Bodrum, à Fethiye, à Göcek. Quand je vais dans le sud-est, moi, c'est un petit peu moins européen. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours des gens qui veulent aller dans les coins impossibles.
Alors là, j'ai vu qu'à propos d'Istanbul, vous nous proposez une musique qui est une musique.
Eh oui, parce que moi, comme je fais cette émission pour montrer combien les Turcs sont européens, je ne vais maintenant illustrer qu'avec des musiques de gens qui étaient en Asie mineure avant les Turcs. Alors on va prendre une petite musique de cabaret. Ça s'appelle un tatavlinos. C'est les cabarets où allaient les musulmans le soir pendant le ramadan. Ils allaient boire du raqueux, bien sûr, pendant le ramadan. Et c'était les grecs qui tenaient les tavernes.
Tatavinos.
Tatavlinos. C'est le quartier de Tatavla qui s'appelle maintenant Kurtuluş, la révolution.
Très joli, ça. Tatavlianos.
Tatavlianos.
C'est un peu rock. Un peu rock.
Oui, un peu rock. Bah, c'est du santour. Le santour, c'est très réverbérant, donc ça fond tout.
Ça me plaît beaucoup. Ah, vous nous disiez que les Bretons sont turcs. Et vous en avez une preuve sémantique.
J'en ai une preuve absolument irréfutable. Une poulou inek veut dire en turc la vache tachetée. Or, il existe dans la baie d'Audierne un village qui s'appelle Plouinec, et cela prouve de façon irréfutable que la Bretagne a d'abord été turque avant d'être française, grâce à François Ier d'ailleurs. Ah, grâce ou à cause, hein, parce que maintenant on ne sait plus s'il faut dire grâce à ou à cause.
Mais en tout cas, ça prouve bien que les Turcs ont de bonnes raisons de rentrer dans l'Europe.
Non, absolument. Mais vous savez que sur les livres d'histoire turque, vous voyez qu'ils ont conquis l'Islande, le Labrador, etc. Façon. Mais c'était ce chef d'État, j'ai oublié de le citer, mais il est toujours temps. Les Turcs ont eu un chef d'État qui était un kurde loyaliste. Il s'appelait Turkut Özal. Oui, c'est comme les Corses. Pardon, je ne suis pas contre les Corses, j'aime bien les Corses. Mais les Corses, un jour, un ministre irakien me dit, qu'est-ce que c'est qu'un Corse? Je lui dis, c'est comme un Kurde. Il y en a un qui est dans le maquis et l'autre qui est ministre. Effectivement, ce ministre était un Kurde irakien, ministre de Saddam Hussein.
Là, c'était effectivement, en Corse, on a vu ça, avec il n'était pas ministre, il était député, mais son fils était dans le maquis.
Écoutez, on ne choisit pas d'être Corse, on est Corse. Bon, c'est pas comme Simone de Beauvoir qui disait qu'on devenait femme. Alors, Turkut Özal, sur lui, la paix et le salut, il est mort malheureusement. Il est mort d'ailleurs un jour, il devait y avoir un grand concert qui a été annulé, j'étais pas content. Il a dit, nous n'avons pas besoin de faire la guerre à l'Europe pour la conquérir, nous le ferons par l'immigration. C'est beaucoup plus malin que tous ces Napoléons et autres qui font la guerre pour conquérir. Non. L'immigration, c'est beaucoup mieux. Alors, je vous conseille la lecture d'un livre qui a été imprimé en français, qui s'appelle « La Turquie en Europe », de ce même Turkut Özal, donc un kurde loyaliste. La Turquie n'a pas de problème de minorité, car la Turquie n'a pas de minorité.
Eh oui.
Après le massacre des Arméniens, des Assyriens, des Chaldéens, des Syriaques, et toutes les épurations des mouvements islamistes, etc., face à face avec les Kurdes, Il est vrai que la Turquie n'a pratiquement plus de minorité. Les églises grecques, comme je vous ai dit, c'est comme en Union soviétique. Les églises grecques sont vides ou dévastées ou transformées en ateliers. Alors, il ne reste qu'une minorité, c'est la minorité kurde. Mais là, on se trouve face à face entre musulmans et ça marche plus. Il n'y a plus les chrétiens entre les deux pour servir de sandwich. Alors, il reste quand même, bon, ça je vous l'avais dit, il reste 40 000 Arméniens à Istanbul, ils n'ont pas le droit d'habiter la province, et il reste 2 000 Grecs à Istanbul.
Ils n'ont pas le droit, attendez, ils n'ont pas le droit d'habiter la province.
Non, après la glorieuse révolution et la prise de pouvoir de la laïcité turque, mais il faut dire qu'elle n'a pas été laïcité, le traité de Lausanne, les Arméniens ont tous été en résidence obligatoire à Istanbul et dans les banlieues.
C'est-à-dire que Chirac, le président Chirac dont on parlait tout à l'heure, il nous propose d'intégrer à l'Europe antiraciste, fraternelle, solidaire, accueillante, etc., un pays, un État dans lequel certains citoyens sont moins citoyens que les autres. Et n'ont pas le droit de se balader en province.
Oh, mais écoutez, vous blasphémez, parce que je vous ai dit qu'en 1839, le sultan Mehmet V, en 1839, décrète le Tanzimat, par lequel tous les sujets ottomans sont égaux, quelle que soit leur religion, leur nationalité, et qu'en 1840, un an après, l'émir Badr-Han, le kurde, évidemment, c'était un méchant, massacre 10 000 chrétiens assyriens chaldéens. Donc, vous voyez bien que dès 1839, la Turquie décrète l'égalité de tous les sujets.
Pardon d'avoir...
Non, écoutez, là, c'est pas permis. C'est un pays blanc comme neige, etc. D'ailleurs, l'hiver, il y a beaucoup de neige en Turquie. J'ai passé les hivers en Turquie, c'est affreux. Alors, écoutez, puisqu'on parle de blanc comme neige, je vous propose d'aller un peu dans la Turquie touristique. Faut en passer par là. Donc, on va faire toute la côte méditerranéenne du nord-ouest au sud-est. Alors, bon, connaissez la région égéenne. Donc là, tous les coins de vacances, là, ces endroits où la Turquie est européenne. Kuşadası, Bodrum, location de pédalo, Boué, tout ce que vous voudrez, ski nautique, etc., voilier. Antalya est une ville magnifique. Et d'ailleurs, à Antalya, vous découvrirez la présence d'une représentation diplomatique de la République turque de Chypre. Vous savez, cette république est due à l'invasion par les socialistes turcs, Ecevit, priez pour lui, 1974. Il a décrété, c'est le droit d'ingérence, vous savez, les socialistes aiment bien ingérer, gérer plutôt. Enfin,
j'aime bien ingérer aussi.
J'aime bien gérer aussi, oui.
il vaut mieux gérer qu'être géré, c'est-à-dire celui qui gère, c'est comme les fermiers généraux, pourtant je suis monarchiste, je voudrais pas dire trop de mal d'eux. Mais enfin, il vaut mieux manipuler l'argent que avoir à le donner. Alors là, si on arrive à la Cilicie arménienne, je vous ferai remarquer, toutes les antiquités grecques sont visitables en tant que lieu touristique. Ça attire des touristes, d'ailleurs. Et le jour où la France sera république islamique, je pense qu'on continuera à faire visiter Notre-Dame. Elle sera peut-être transformée en mosquée, mais on fera visiter d'autres églises qui ne seront pas transformées. On fera visiter, je sais pas quoi, mais des choses vétustes. La maison de la femme à Neuilly-sur-Seine, enfin... Je sais pas quoi, moi. Il faut quand même faire état de toutes les ruines pour faire du tourisme. Alors, la République turque de Chypre du Nord a fermé pas mal d'églises. Elle a chassé les Grecs. On en trouve d'ailleurs plein la Grèce, des Grecs de Chypre chassés. Il y a que les Libanais maronites qui ont réussi à garder quelques églises ouvertes. Alors, la Cilicie arménienne, ça toujours parce que la France a renoncé à sa zone en 21. Plus trace d'un seul Arménien. Et alors, ce qu'il y a de bien en ce qui concerne les Arméniens, cherchez une pierre tombale, vous ne la trouverez pas. Quelquefois, quand on cherche dans un champ en Bretagne, on trouve un bout de crucifix. Non, il n'y a rien, rien, rien. C'est le bulldozer, c'est la charrue. Comme c'est Cincinnatus qui était retourné à sa charrue, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Donc, il est passé une sorte de bulldozer sur toute la Turquie du Sud-Est. Alors, pas d'église, mais il y a des églises des premiers siècles pour le tourisme. Il y a toute une vallée d'églises qu'un prêtre que je connais... Un homme très cultivé, comment s'appelait-il ? Oscar Neri. J'ai visité des groupes d'églises des premiers siècles. Pas la Cappadoce c'est banal. Alors après, vous arrivez encore une des bontés de la France face à l'islam, le Hatay, le Saint-Jacques d'Alexandrette, Antioche, autrement dit une ville historique, un des premiers patriarcats, était une région de population arabe, musulmane et chrétienne, comme tout ce coin-là, c'était la Syrie historique, sous mandat français, mais en juin 39, la France, et j'ai les journaux chez moi à la campagne, on voit la Turquie est avec nous. La France, selon une politique douteuse, cède cette région à la Turquie après un référendum truqué. Vous voyez que les référendums truqués n'ont pas été inventés par les Ukrainiens. Ni, moi, j'aimais bien quand Staline avait 99% des voix.
J'aurais bien voulu voir la photo du mec qui avait voté contre.
Mais écoutez, j'ai été au référendum irakien et j'ai vu l'évêque chaldéen d'Al-Kosh. Mais c'est normal, il y avait un bulletin à remplir, il fallait rayer, mettre la croix à droite ou à gauche. Il a voté devant tout le monde, évidemment, il avait mis la croix du côté de Saddam. Mais ça, c'est le référendum de Jean-là n'a aucun intérêt. Alors, ça a permis à tous les Arméniens qui s'étaient réfugiés à Antioche de fuir vers Alep. Et donc, maintenant, c'est turc. Mais dites-moi, si la Turquie rentre en Europe, il faut qu'elle rende d'abord toutes les régions du traité de Sèvres à ceux qui devaient les gérer. Donc on veut bien d'Ankara en Europe, Ankara et les banlieues, on en veut bien. On arrivera à les gérer, mais il faut que tout le reste soit rendu. Quant au Sanjak d'Alexandrette, Antioche, il faut que ce soit rendu à la Syrie. Alors, on y trouve deux églises. Alors là, ça fonctionne, parce que forcément, il y a une forte population chrétienne qui, depuis 1939, n'a pas entièrement disparu. Il y a une église Saint-Georges, et il y a la grotte de Saint-Pierre. Alors, je vous propose une musique un peu neutre. Ça s'appelle Carrozzeri, ça veut dire le cocher. Carrosse. Bon, s'il vous plaît, Ah, cocher ralentit nos chevaux, mais ça c'est russe.
C'est russe, oui.
Ah, ce qui est russe, c'est toujours bon.
Bien, alors continuons sans perdre de temps. Là, on était non pas en Roumanie, comme on pourrait le croire avec la musique, mais
sur les côtes méditerranéennes de loin. De la Turquie. Vous savez, un cocher, ça peut venir de loin. Hein.
Oui, bien sûr. Mais enfin,
long jumeau.
Voilà ça. On va passer en route Mésopotamie.
Oui, oui, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est tout l'Abdine?
Ben oui, c'était le fief des Syriens, car saint Thomas, dans son apologie du christianisme, a réussi à convertir des tas de gens en Haute-Mésopotamie. Ça a donné les Syriaques qu'on a appelés longtemps Jacobites, mais ils n'aiment pas se référer à Yacoub Baladaï, et les Nestoriens, en fonction de Nestorius. Tout ça, ce sont des pauvres exclus, puisque dans les conciles, la majorité détient la vérité. Ça me semble très républicain, moi. Faut pas ça très religieux comme principe, mais c'est comme ça. Bon.
Si, alors, ça peut se faire du principe que la majorité est inspirée par le Saint-Esprit.
Oui.
Le Saint-Esprit perd pas son temps avec les minorités. cela dit, les Nestoriens ont quand même fait un joli coup. Ils avaient évangélisé la Chine.
Mais c'était fantastique, le nestorianisme. C'était, autrement dit, ce qui s'appelle maintenant la religion assyrienne. Ça s'appelait plutôt religion de l'Orient, ça. Kanissa al Shark al-Kadim. Et en plus, il y a un schisme. Ils ont deux patriarches maintenant. Patriarche archéo-calendaire et néo-calendaire.
Oh, mais c'est compliqué. Je vous coupe une seconde, si vous permettez. C'est incroyable, nous dit un auditeur, comme cette musique ressemble à la musica populaire romanaise.
Évidemment.
À un certain moment, il m'a semblé être Radio Romana de Ceausescu.
Tout à fait.
Les Turcs doivent laisser quelques traces chez la sœur cadette de la France.
Mais alors, je précise que toutes les musiques que je passe pendant ce voyage sont des musiques de minorité. Or là, c'était une musique réputée grecque, mais après l'avoir mise au programme, je me suis dit, c'est terriblement roumain. Et d'ailleurs, ça a été c'est typiquement roumain. Mais comme il s'agit de musique de minorité, peut-être un cocher, c'était peut-être le cocher roumain du patriarche œcuménique. Alors, en haut de Mésopotamie...
Je voulais dire à l'auditeur qui demande le disque que c'est un montage que M. Chabrier a fait, que par conséquent, on ne peut pas l'obtenir.
Le disque, c'est la collection de centres de préservation des musiques traditionnelles d'Athènes, anciennement dirigé par un dénommé Simon Karash. Le disque a des titres en grec. Il est introuvable à Paris, à ma connaissance. Mais je suis navré, tous les disques que j'ai utilisés ont été achetés en Turquie ou en Grèce. Je n'achète pratiquement pas de disques turcs ni grecs en France.
On trouve toutes les œuvres de Chabrier partout.
Vous voulez parler du grand Chabrier, la bourrée fantasque. Mais nous sommes justement dans une bourrée fantasque, alors en haute Mésopotamie. Bon, je vous fais grâce des massacres, puisque à partir de 1839.
Ça tourne au tic, les massacres.
Oui, c'est vrai que c'est un tic. Alors, en 14, Furman préconisant l'extermination, le village d'Einwerth encerclé, c'est un village syriaque, car il y a des gens des banlieues françaises qui prétendent que c'est un village assyro-chaldéen. Alors, foi d'animal, j'y vais depuis 1957, Einwerth est un village syriaque orthodoxe.
Voilà un détail important, quand même.
Oui, non, parce que vous savez, les gens annexent toujours les martyrs des voisins. Alors là, c'est toujours abusif.
Dans ce village, on joue de la clarinette.
Ça va venir. Alors, laissez-moi juste le temps de dire que ces gens sont les derniers à avoir résisté, alors que tous les patriarches sont partis lors de l'instauration de la Grande Turquie de Mustafa Kemal. Le patriarcat chaldéen a quitté Diyarbakir, il reste un palais en ruine et une cathédrale délabrée. Le patriarcat syriaque catholique a quitté Mardin et le patriarcat syriaque orthodoxe de Deir ez-Zafaran a quitté et est parti pour la Syrie. Alors, je fais remarquer que l'ancien patriarcat syriaque catholique de Mardin est transformé en musée régional et au nom de la laïcité, il n'est nulle part précisé que c'est l'ancien palais patriarcal syriaque catholique. C'est ça la laïcité. D'ailleurs, je crois qu'en France, on commence à s'y connaître pour la laïcité, puisqu'on dit que l'Europe n'a pas de racines chrétiennes. Ben, c'est ça la laïcité.
Mais elle a des racines ottomanes.
Ah oui, ça c'est vous nous dites. Poulouinec, vive la Bretagne. Alors, je vous fais grâce à la guerre du Golfe et les rescapés, car les Syriaques orthodoxes sont les derniers minoritaires à oser rester dans le sud-est. Il en reste environ 2000. Quand j'ai connu Midyat en 1957, c'était 100% chrétiens syriaques orthodoxes et maintenant c'est 98% kurdes. Vous voyez que les Kurdes, finalement, c'est comme les Israéliens, ils veulent avancer et puis les autres sont priés d'aller voir ailleurs. Alors, si on écoutait la petite musique de ce charmant
Turabdin,
le Turabdin, ça veut dire la colline des martyrs.
Clarinette et solo. Masculin.
Turabdin,
Bien, on continue notre survol géographico-musical. Alors, on était là dans le, dans, en route Mésopotamie.
Et on passe au sud-est, assyrien et kurde. Ouais. Je dis bien assyrien et kurde parce qu'on ne peut l'appeler Kurdistan que parce que les Kurdes arrivés au XIIIe siècle ont chassé ou massacré les autres, qui étaient les Assyriens. C'était le territoire des Assyriens. Alors, je vous fais grâce des descriptions géographiques. C'est magnifique. La vallée du Zab, c'est un paradis. C'est Zustenpass, moins les cafés suisses avec les rideaux à carreaux rouges.
Ah oui.
Ah, c'est magnifique, absolument magnifique. On comprend que les Kurdes en veuillent parce que, en plus, l'été n'y fait pas tellement chaud, c'est agréable. Bon, je vous fais grâce du massacre des Assyriens.
Comme toujours.
Puisque on va faire grâce des massacres.
Il n'y a que les Turcs qui font grâce à personne, si je comprends bien.
Bon, alors. Cela étant, je vous rappelle donc que Mustafa Kemal n'a pas autorisé les Assyriens à regagner leur territoire ancestral. Ils étaient là depuis plus de 20 siècles. Bon, c'est comme ça. Alors, le patriarcat de Kotchanes est également en ruine. Il a été saccagé à partir de 1917. On va passer aux musiques suivantes. Là, c'est une liturgie assyrienne. Alors, ceux qui sont croyants peuvent se mettre debout.
C'est le canon d'Hosanna.
Non, c'est Hosanna Kanun. Mais non, il s'appelle Hosanna Kanun, ça veut dire la règle, c'est du grec. Il s'appelle Hosanna, si vous voulez, Kanun, et l'autre s'appelle Yoel, comme Joël, Yaku.
Ah, c'est son nom, il s'appelle
Hosanna. Ce sont des patriarches, des shamash, c'est-à-dire des chantres, des diacres assyriens.
Ah, نثل لنا صورة ومنا ثويرت الخيين ملكوثا بشميا خلاف كل الخاين والميثين مذقار قربانا هانا نتقبل من خطايا من خلد ربو تمر ببي جياس برخنا شيخ شرم الليل ونقبل فيرس بواسه ونقص خوبي وخطاي. Et en même temps qu'on écoutait ça, Jean-Claude Chevrier nous a remarqué que par rapport à ce genre de musique, c'est vrai que la liturgie de Saint-Pie V, c'est un petit peu moderne. Hein, on peut dire 16e siècle par rapport à...
Tout est relatif.
Sauf que la messe Saint-Pie V ne date pas du 16e siècle. La messe Saint-Pie V, c'est une réforme de la messe. Et l'essentiel de la messe Saint-Pie V, elle date de Saint Grégoire le Grand. Et donc, elle est un tout petit peu plus ancienne que le 16e
voilà.
siècle.
Et toc. Bon, allez. Je savais que ça n'était pas en vain que j'avais demandé à Michel de venir.
Pas de guerre religieuse autour du micro des Ardo Courtoisie, ça amoindrit nos forces.
Alors, on va enfin parler quand même de l'Arménie. Enfin,
du Nord-Est, parce que des Arméniens, il y en avait partout.
Mais alors, là, l'Arménie du Nord-Est, c'est vraiment l'Arménie.
Alors, comme on a parlé énormément de massacres à propos de toutes les autres régions, on ne va pas à nouveau parler de massacres. Celui-là, les gens le connaissent. Bon, 1921, Kazim Karabekir écrase ce qui reste d'Arméniens. Le reste avait été commencé en 1885, 1914, 1915, etc. Alors, je voudrais dire ce qui reste, parce que malgré le bulldozer de la laïcité turque, il reste quelques petits trucs. D'abord, au bord du lac de Van, l'église d'Aktamar. Ensuite, la ville d'Ani à la frontière de l'Arménie ex-soviétique. La cathédrale arménienne de Kars sur une colline, parce que la cathédrale russe orthodoxe de Kars a été transformée en centrale électrique. Ce qui n'est pas bête. La religion, c'est une forme d'énergie. Alors, les monastères du mont Varak, connus en turc sous le nom de Yedikilisé, les sept églises, parce qu'il y en a trois. Je vous recommande l'église de la Mère de Dieu et ses fresques, mais c'est très dur d'accès. Zabbache, ça veut dire la tête du Zab, c'est-à-dire la source du Zab, le monastère de Sub-Bartholoméos, et Sorader, avec les restes d'un clocher.
Alors là, on va écouter quelque chose qui... C'est une musique arménienne.
Oui, c'est Dele Yaman, chantée par Hayrik Mouradian. C'est une chanson populaire arménienne traditionnelle.
Yomine Shalet Naver Im Sirt Nerva Kerak Ibes Yaman Yaman Vailet Naver Im Sirt Nerva Kerak Ibes.
Ça, c'est très très beau, c'est plus proche de nous que ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Là, on sent que quand même la, les harmonies arméniennes sont plus à mon oreille.
Oui, puis c'est pas une liturgie du 4e siècle, donc ça a le droit d'être plus proche de nous. Alors pour terminer, moi je voudrais poser une question. Pourquoi des populations d'origine extra-européenne, les Kurdes viennent du Zagros, les Turcs viennent de l'Orkhon, Asie centrale, s'étant installés par la force et le massacre sur des terres appartenant à des peuples et à des cultures chrétiennes et ou européennes, à savoir arméniens, syriens, chaldéens, syriaques, grecs, seraient-elles autorisées à se déclarer européennes? Somme toute, c'est le lieu. Donc si j'achète un appartement à Monaco, je suis monégasque. Et alors, à ce moment-là, Israël, qui s'est installé sur des terres arabes, devrait entrer dans la Ligue arabe. C'est QFD.
Ne regardez pas par la fenêtre, c'est pas un accident, c'était une musique, c'était un solo de cornemuse du Pont-Euxin. Qui parle encore du Pont-Euxin?
Ah, c'est pas le Pont-Neuf.
C'est pas le Pont-Neuf.
C'est un peu plus loin.
Merci beaucoup, merci Jean-Claude Chabrier d'être venu nous faire faire cette promenade au-dessus de l'Empire Ottoman à travers les musiques des minorités et de la majorité. On en reste sur un goût de trop peu, mais on y reviendra, on fera d'autres émissions. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus longuement des Arméniens. Peut-être qu'on invitera un Arménien.
Pourquoi pas, oui. Ça.
Je me tourne, comme promis, vers Michel de Gégère pour lui demander de nous présenter le dernier enfant des éditions de Renaissance catholique, c'est ça?
Voilà. Vous savez que dimanche, c'est la fête du livre de Renaissance catholique qui a lieu cette année à Villepreux, puisque nous avons été chassés du palais des congrès de Versailles, qui a trouvé que les livres qui étaient vendus contre cette vente étaient échappés trop à la pensée unique pour pouvoir bénéficier du site de Versailles dans lequel nous étions depuis 13 ans. Et donc cette année, nous sommes repliés à Villepreux chez Monsieur de Saint-Seine, qui nous a très gentiment donné l'hospitalité pour cette fête du livre. Et à l'occasion de cette fête du livre, nous avons voulu célébrer à notre manière l'année de l'Eucharistie qui a été promulguée par Jean-Paul II en rééditant le bref examen critique du Nouvel Ordo Missae. Le bref examen, c'est un livre qui est très classique dans notre famille de pensée, puisque c'est un livre qui a eu une importance immense, puisque c'est lui qui a posé la première critique doctrinale de la messe de Paul VI en 1969, dès avant sa mise en application. C'est-à-dire que lorsque le texte du Nouvel Ordo a été connu, eh bien, un certain nombre de gens à Rome ont contacté le cardinal Ottaviani, qui était le préfet du Saint-Office, le prédécesseur au fond du cardinal Ratzinger aujourd'hui, et en lui disant qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réagir. On a fait travailler un groupe de théologiens, puis c'est le père Gérard des Lauriers qui a rédigé le texte lui-même, et le cardinal Ottaviani qui l'a signé, rejoint par le cardinal Bacci. Le cardinal Bacci était un cardinal qui avait été un ami de Jean XXIII, curieusement, et qui avait rédigé une encyclique de Jean XXIII qui s'appelle Veterum Sapientia, qui était une encyclique dans laquelle Jean XXIII demandait que l'on promeuve l'enseignement du latin. Et donc, ces deux cardinaux qui pensaient être rejoints par des quantités d'autres, et puis qui se sont retrouvés tout seuls, quand ils se sont retournés, ils ont vu qu'il n'y avait que derrière IRE avait signé ce texte qui demandait au pape Paul VI de ne pas promulguer le nouvel ordo, de ne pas se lancer dans l'aventure de la nouvelle messe, parce qu'il leur semblait que la nouvelle messe s'éloignait de façon impressionnante des canons du Concile de Trente, qui avait défini une fois pour toutes la messe catholique et avait fixé un certain nombre de barrières pour empêcher l'hérésie de s'introduire par la voie de la liturgie dans l'Église. Et donc c'est un texte très solennel qui a été connu en France d'une part par l'abbé de Nantes, d'autre part par la revue Itinéraire et Jean Madiran qui en ont assuré la diffusion. Mais ce texte est difficile aujourd'hui à trouver, on ne le trouve pas en librairie, il existe dans certains recueils. Et nous avons voulu faire un petit livre pour qu'il soit à un prix très bas, puisque c'est un livre qu'on va vendre 10 euros, qui réunit à la fois une introduction historique qui raconte les circonstances de la rédaction de ce texte, le texte lui-même du bref examen, mais aussi les textes du Concile de Trente sur la messe, la bulle Quo Primum de Saint-Pie V qui promulgue la messe dite de Saint-Pie V, et avoir un petit livre très utilisable, très facile d'accès, pour permettre à tous ceux que ça intéresse bien d'avoir accès à la critique doctrinale de la messe de Paul VI. Il nous a paru qu'aujourd'hui, notamment dans les jeunes générations, même s'il existe ici ou là un attachement sentimental aux formes liturgiques anciennes, un attachement quelquefois esthétique, eh bien quelquefois l'aspect doctrinal passait au second plan. Il fallait offrir à ces jeunes générations l'occasion de se former par ce texte. Et puis c'est un texte qui vient de l'Église enseignante. Ce sont deux cardinaux, deux évêques qui nous le proposent. C'est pas l'avis d'un laïc, l'avis d'un théologien. C'est deux cardinaux dont l'un a été le préfet du Saint-Office sous Pie XII, sous Jean XXIII, sous Paul VI, donc ce n'était pas exactement rien, qui a été le préfet du Saint-Office pendant tout le Concile Vatican II. Et donc s'il dit que la nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante de l'orthodoxie catholique, eh bien c'est tout de même un avis qui est à prendre en compte. Je crois que c'est un texte qui est complètement occulté, complètement oublié aujourd'hui, et qui pourrait être très utile pour un certain nombre de jeunes prêtres qui disent aujourd'hui la messe de Paul VI, qui sont des bons prêtres, sûrement des saints prêtres, mais qui n'ont jamais été mis en présence d'une critique doctrinale de la messe qu'ils célèbrent. Et donc nous voudrions mettre ces prêtres en possession de ce texte de la façon la plus facile possible. C'est pourquoi donc nous avons publié ce texte avec un prix très bas pour permettre aux gens de l'acheter en nombre, puisque nous le vendons 10 euros, mais il y a des prix dégressifs si on nous en commande. C'est un texte qui est à donner, qui est à répandre autour de soi. Il y a des prix dégressifs si on en prend plusieurs. Et puis surtout, nous avons lancé une souscription qui commencera donc dimanche à Villepreux et que nous aimerions étendre à toute la France. C'est-à-dire que vous pouvez donner chaque billet de 5 euros accompagné de l'adresse d'un prêtre, nous permettra d'envoyer gratuitement un bref examen critique à un prêtre français qui aujourd'hui dit la messe de Paul VI et qui pourrait être amené à se poser des questions après la lecture de ce texte. Et puis enfin, l'événement un petit peu, c'est que nous avons bénéficié d'une préface du cardinal Stickler, qui est donc toujours vivant, qui est donc un cardinal en exercice, même s'il est à la retraite, qui est préfet émérite des archives vaticanes, et qui a bien voulu nous donner une préface, nous félicitant, nous encourageant dans cette édition, en nous disant que la messe de Saint-Pie V n'avait jamais été interdite, et que l'analyse donnée par ces deux cardinaux, le cardinal Ottaviani et le cardinal Bacci, n'avait rien perdu de son actualité pertinence. Et de sa pertinence.
Merci beaucoup Michel. Rendez-vous donc à Villepreux, où vous pourrez participer à cette opération qui me paraît excellente.
Victoria, alors je précise oui. Simplement pour ceux qui seraient inquiets qu'il y a une navette de car qui est installée oui. Entre la gare Versailles-Rive-Droite et Villepreux toutes les demi-heures pour permettre aux gens qui ne sauraient pas comment aller à Villepreux d'y aller gratuitement. C'est une navette évidemment aller-retour.
Procession pour l'Immaculée Conception ce soir à 20h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. L'Institut Louis XVII rappelle le décès de M. Jacques Amann, président fondateur du Cercle Louis XVII. Les obsèques auront lieu demain, jeudi 9 décembre, à 14h à l'église Saint-Étienne, allée des Peupliers, à Noisy-le-Sec. Samedi prochain, 11 décembre, de 15h30 à 18h30, Vladimir Fedorovski dédicacera le roman de la Russie insolite et François Foucard dédicacera « C'était Versailles, 1940-1950 » à la librairie France Livre 6 du Petit Pont. Clôture de l'année Bossuet à Couilly-Pont-aux-Dames, 45 km de Paris par A4 SNCF RER, avec en l'église Saint-Georges de Couilly le sermon sur les devoirs des rois, dit par M. Bernard Latour, à la salle polyvalente une conférence Bossuet, précepteur du grand dauphin et l'éducation des princes aujourd'hui, par M. l'abbé Alain Laurence et M. Nicolas Tandler. Samedi prochain, 11 décembre, de 14h à 18h, téléphonez pour s'inscrire au 01 60 04 13 36. concert des petits chanteurs à Saint-Charles, de Saint-Charles de Versailles, Noëls anciens et populaires, vendredi 10 décembre, 20h30, dans l'église Saint-Vendry-du-Pec.
Merci, bonne semaine, à la semaine prochaine, que Dieu nous garde, Marquis, rendez-vous la semaine prochaine.
Ouais, bien sûr.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg...